Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission présentée par Eladji Makalou. Bien évidemment aujourd'hui on va parler de football, on va parler du premier trophée collectif de Harry Kane, on va notamment parler de la montée du Paris FC en Ligue 1, bref on va parler de football. Comment ça va Salson?
Ça va très bien et toi?
Ça va super.
Nickel.
Top. Bonne semaine de football.
Très bonne semaine de football,
il y a très
des,
semaine,
des beaux résultats, des beaux matchs, non franchement je kiffe.
Et on a un nouveau chroniqueur aujourd'hui avec nous. Lucas, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va super, ça nous fait deux Lucas, deux Léo. On aura peut-être deux Alexandre d'ici la fin de la saison. Ça va Alexandre?
Ça va très bien, comme il a dit Salson, on mange bien en ce moment, donc ça fait plaisir.
Ça fait plaisir alors. Jason!
Comment va Elad?
Ça va et toi? Je suppose que ça va. Franchement là, t'es arrivé en mode ensemble full Inter, je suis obligé de le préciser. Et tu t'es assis à côté d'Alexandre, ça c'est pour le dire. Voilà.
Okay. Je n'en dirai pas plus.
Les hostilités sont lancées en tout cas, c'est bien ça. Bonne semaine de football.
Ça a été une grosse semaine, gros match de Ligue des Champions, on a bien aimé. Et ce week-end aussi de Ligue 1 qui a été très passionnant.
On a eu un week-end de Ligue 1 très passionnant, comme tu l'as dit Jason. On va revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain. Hein. Le Paris Saint-Germain déjà champion avec une équipe moyennement remaniée, on peut dire. En tout cas sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Kelia, en tout cas en tant que titulaire. Et, bien sûr, cette équipe strasbourgeoise hein, qui n'étonne plus et qui sont imposées tout simplement 2-1 face au Paris Saint-Germain et qui recolle aux places européennes et qui peuvent croire encore en la Ligue des Champions. Et on a aussi vu le Paris FC, on va parler un peu de Ligue 2, hein. On n'est pas coutumier du fait, mais ça serait bien quand même. Et là, on a pu voir le Paris FC s'imposer et venir, enfin avec un match nul, et venir tout simplement en Ligue 1 pour la première fois. Paris FC, hein, depuis ces 5 dernières années, ils étaient toujours à la limite, ils ont joué des playoffs, ils ont tout le temps, c'était à ça, et là finalement... ils sont arrivés. Qu'est-ce que ça te fait, toi, Salson, d'être parisien et de voir enfin deux clubs parisiens en Ligue 1?
Bah, ça fait grandement plaisir de voir le Paris FC en Ligue 1. Parce que ça faisait, comme tu as dit, un moment qu'ils essayaient de monter en Ligue 1. C'était un peu compliqué. Ils se bataillaient en play-off et tout ce qui en suit. Et c'est un deuxième club parisien. Et c'est pas un club parisien anodin. C'est un club où je pense qu'on se reconnaît à peu près tous. Qui est juste en bas de chez nous pour tout le monde à peu près ici, surtout nous qui sommes du 13e arrondissement. Ça fait grandement plaisir et j'espère que ce club, en plus le club il a un beau projet avec les Red Bull et je pense qu'ils vont faire des dégâts, ils vont avoir une bonne gestion et je suis très content. Et ça fait un deuxième club parisien et je suis en train de voir aussi que les autres clubs d'Île-de-France sont en train d'être de plus en plus en...
On peut parler du Paris 13 Atlético aussi déjà.
Il y a Fleury
qui sont montés en national.
C'est une très belle chose. Et tu as Créteil aussi qui va être récupéré par...
Ouais, qui va être acheté
par Niel. Donc franchement...
qui veut mettre la lumière à Créteil d'ailleurs.
J'espère que les clubs parisiens vont continuer à monter. Et pour le Paris FC, c'est vraiment spécial et c'est mérité tout le long de leur travail et les années précédentes.
Merci Salson. Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé toi de tout ça et de la... Tu peux nous parler aussi de ce que tu as pensé du Paris FC, hein, toi qui me l'as soufflé hors antenne même.
Bah pour moi, le Paris FC, c'était une évidence que la montée cette année avec l'arrivée de la famille Arnaud. Je pense que aussi, moi je suis très en tant que parisien, c'est assez enfin d'avoir un derby, on l'attendait un peu tous.
On pensait que ça allait être le Red Star à un moment.
C'est ça, on pensait, mais le côté Paris FC, il est quand même assez populaire comme tu le disais, et on s'identifie vraiment et on a c'est vraiment pas le contraire du Paris Saint-Germain, mais on est avec un contraire un peu en bas.
Ok, merci Lucas. Alexandre ?
Franchement, moi je suis très très content.
Ouais.
Je suis très content parce que ça fait longtemps en vrai que je vais voir, les matchs du Paris FC, comme les matchs du Red Star d'ailleurs. Et je trouve qu'on avait un retard comparé aux autres pays, que la capitale, elle n'est pas un deuxième représentant dans le premier championnat. Et je trouve ça très très bien que ce soit le Paris FC. Et j'irai plus loin, je trouve qu'ils ont ultra bien géré, même s'ils n'arrivaient pas à monter et à passer ce plafond de verre depuis quelques saisons, je trouve qu'ils ont très très bien géré toute la communication autour du rachat. Parce que ils ont appris des erreurs qu'ont fait les Qataris finalement. Même si bon, là c'est quand même un fonds d'investissement privé, c'est pas un état, c'est un peu différent et tout. Mais ils ont quand même appris des erreurs du PSG. Et la communication, elle a été bien gérée parce qu'ils ont dit dès le départ, on va pas injecter des millions pour injecter des millions. Ils ont investi avec Red Bull pour s'occuper de la partie sportive. Et on sait que Red Bull, ils savent bien faire ça dans le milieu du sport et du foot. Et en plus de ça, leur communication marketing, elle était bien puisque c'était gratuit cette année pour les matchs à domicile. Donc ça, franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Après, si on me demande dans mon avis, je vais dire quand même, l'année prochaine, je suis très heureux qu'ils soient en Ligue 1. Ils vont sans doute faire un recrutement qui sera plutôt bon, etc. Mais je pense que ça va être un bazar pas possible en fait avec le PSG parce que...
Dans la gérance tu parles ?
Ouais, dans la gérance parce que je trouve que Paris malheureusement en termes de collectivité et tout, ils sont pas prêts j'ai l'impression pour ça. Dans le sens où on parle de qui vont jouer peut-être à Jean-Bouin.
C'est sûr.
Ils vont jouer à Jean-Bouin. Sauf que dans le même temps, peut-être quelques années plus tard, t'as PSG, ils vont peut-être aller à Massy. Et puis du coup peut-être le PFC ils vont prendre le Parc des Princes, enfin, ça c'est un schmilblick avec Anne Hidalgo et tout, bon ça c'est politique et tout, mais je trouve, j'ai peur en fait que ça vire un truc qui soit un peu relou, mais sinon concrètement en vrai je suis vraiment content que le Paris FC il soit monté en Ligue 1.
Merci Alexandre. Jason ?
À moi, hyper hyper content venant du 13e et ayant joué au Paris FC pendant plusieurs années. Et franchement, je suis ravi que le Paris FC monte. Ça fait des années que c'était limite, que ça faisait déjà l'ascenseur entre National et Ligue 2. Et là, de se retrouver en Ligue 1, franchement, comme vous avez dit tout à l'heure, tout le monde pensait que ça allait être le Red Star. Mais le Red Star était un peu plus dans le déclin ces dernières années. Et le Paris FC se rapprochait plus d'une montée. Et franchement, je suis très heureux. Hein. Très, très, très heureux. Ouais, j'aurais aimé me donner des années en arrière pour vivre cette montée.
Et ça, ce qu'il faut dire en vrai, c'est qu'en plus le Paris FC, en vrai, c'est un club, quand tu suis le foot et en tant que francilien, bah, c'est un club qui travaille ultra bien avec les jeunes.
Ça a toujours été dans le top chez les jeunes.
Ça a toujours été compliqué.
Ouais,
ça a toujours été compliqué, on va pas mentir.
Ça a toujours été club, ouais. L'équipe, leur équipe réserve. Il y avait toujours de la qualité. Ça a toujours été bien géré.
Ça a toujours vraiment été bien géré. C'est une référence en vrai, le Paris FC. C'est une référence. En plus, mine de rien, c'est un club historique parce que c'est un lien, pour ceux qui ne savent pas, avec le PSG justement. Le Paris FC lors de la création 70, etc. etc. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose que pour le football français, que le Paris FC monte en Ligue 1 maintenant. On attend le Red Star et là, ça pourrait être parfait.
On espère en tout cas. En tout cas, deux pour l'instant. On va voir comment ça va décanter durant déjà cette année. On espère que le Paris FC ne va pas descendre l'année d'après hein, parce qu'on a vu beaucoup de clubs monter et redescendre juste après. Mais au niveau du budget, déjà, on voit que c'est dans les alentours de 70 à 80 millions. C'est ce qui a été annoncé en tout cas pour le Mercato. Ça pourrait...
Pour le Mercato.
Ouais,
c'est okay. 80 millions. Ah ouais, c'est beaucoup quand même.
Ouais. C'est comme une équipe de Nantes à peu près qui ont à peu près même budget. Du coup, ça pourrait être intéressant. Mais après,
faut
faire les bons choix.
Après,
je pense qu'à Paris, t'attireras toujours les joueurs.
Oui, c'est ça.
À Paris, le fait que tu sois sur Paris, t'attireras toujours les joueurs.
Ils visent 8 recrues.
Ouais, ce que j'allais dire.
8 recrues avec minimum un joueur expérience Ligue 1. Ouais.
Moi, je peux. Bon, je ne vais pas m'avancer, mais je sais déjà quelques joueurs qui avaient joué en Ligue 1 et qui vont sûrement revenir dans ce club-là. On en parlera plus tard.
Tu ne veux pas nous dire les dossiers.
Excusez-moi, mais je ne peux pas vous le dire. Mais on va en parler bientôt. Du coup, la Ligue 1, Marseille tenue en échec face aux Lillois. Un partout, Marseille qui ont dominé la rencontre, hein, Lillois qui ont eu une seule occasion sur une boulette de roulis et qui les ont punis tout simplement. Mais Marseille conserve quand même sa deuxième place au détriment de l'AS Monaco, hein, qui s'impose face à Saint-Etienne et reste au contact de l'OM. Mais voilà. Et Strasbourg qui ont battu le Paris Saint-Germain 2-1 et Nice aussi qui se sont imposés un but à zéro. Et franchement, la mauvaise opération de cette journée, on pense que c'est pour les Lyonnais qui ont perdu à domicile face à Lens 2-1. Quelles sont vos analyses sur ces journées, sur cette journée de Ligue 1, Jason?
Concernant l'Olympique de Marseille, ça a été un bon résultat sans être un bon résultat. Quand on se dit que Marseille va à Lille, si Marseille repart avec un match nul, on se dit que c'est très positif pour conserver cette deuxième place. Mais là, ils avaient la victoire au bout des doigts, au bout des pieds. Et malgré, ils se sont fait rattraper par, je ne saurais pas comment expliquer, mais l'erreur de roulis, c'est une erreur à ne pas faire quand tu mènes 1-0. Il reste quoi? Une vingtaine de minutes. Et faut balayer ses principes à partir d'un moment pour se dire qu'il faut aller chercher cette Champions League. Et là, ils se sont sabordés cette fin de match, qu'ils ressortent avec un match nul, malgré que ça soit positif. Hein. Mais une victoire au vu du match et de la domination qu'il y a eu. Parce que Lille a eu un seul tir cadré.
Un seul tir cadré.
Ils s'en sortent très, 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 très bien. Et ressortir avec un match nul, franchement, chapeau à Lille. Parce que c'était pas donné au vu du match.
Est-ce qu'on peut en vouloir à Roulis qui les a sauvés énormément de fois cette saison, qui les a sauvés, qui leur a récupéré un nombre de points incontables, je pense, jusqu'à maintenant. Et est-ce qu'on peut en vouloir à Roulis de ne pas d'avoir fait cette boulette, Salson?
Bon, franchement, comme je dis toujours, le football c'est ingrat. Pour moi, c'est le sport le plus ingrat. Malheureusement, il fait une erreur. Là, il faut pas la faire. Donc, tu vas oublier. Les footiques sont entre parenthèses où les gens agréent, ils vont oublier tout ce qu'il a fait auparavant, mais tu peux pas lui en vouloir. Parce qu'une boulette, ça arrive dans une saison. Mais malheureusement, elle est arrivée au mauvais moment.
Il n'y a pas vraiment de conséquences parce qu'ils sont toujours deuxième, ils ont leur destin entre les mains.
Ils ont le destin entre leurs mains, et donc ça va, tu vois. Mais c'est vrai que ça fout les jetons et tu te dis que tu aurais pu prendre l'avance. En plus, il reste 2 journées, je crois. Et donc voilà, mais après c'est pas fini. Il les a sauvés, comme tu as dit, il leur a récupéré un nombre quelques clubs de points. La saison est continue, c'est à eux de faire le boulot dans les 2 derniers matchs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et s'ils perdent leurs 2 prochains matchs, ce sera pas la faute à Rui maintenant, s'il fait pas de boulette trop tôt.
Merci Salson. L'AS Monaco qui sont imposés 3-1 face à Saint-Etienne, qu'est-ce que t'en penses, Lucas?
Bah, c'est assez bien. Monaco, ils sont dans une bonne position actuellement, donc favorable. Je pense quand même que ça va être serré jusqu'à la fin. Comme vous le disiez, avec Lyon, la mauvaise opération, je pense que jusqu'à la fin, on aura une fin de saison hyper alétante et où on saura jusqu'à la dernière minute ce qui va se passer. Et je pense qu'il y a aussi le côté Monaco qui est dans une bonne forme actuellement et qui rebondit bien sur ses
Merci Lucas. Et aussi il y a Lyon qui ont perdu à domicile. Qu'est-ce que tu en as pensé de la défaite de Lyon?
La défaite de Lyon, c'est un peu la mauvaise opération. Après, on se souvient de la saison dernière, par exemple, où ils étaient derniers et ils sont revenus. Après, on n'est pas dans le même contexte, mais tout peut arriver dans le football. Donc, je pense qu'ils ont les capacités de le faire et d'aller chercher, quand même, d'espérer encore d'aller chercher la Ligue des Champions après, au bout de 5 ans. Qui n'ont pas été.
Merci Lucas. Alexandre?
Franchement, cette journée de Ligue 1, encore une fois, elle était bien parce que Elle en dit, enfin, elle peut laisser beaucoup de présages pour la suite. Il reste deux journées encore. Il reste deux journées, ça va être vraiment très intéressant. Après, bon, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais Lyon, franchement, ça, s'il ne se qualifie pas pour une Coupe européenne, même pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué pour la suite, Lyon, parce qu'on sait qu'ils ont des gros problèmes financiers. Il y a des joueurs qui arrivent en bout de course, ils vont devoir recruter parce que leur effectif il est incomplet. Il y a peut-être des joueurs même qui vont vouloir partir. Leur centre de formation, il est moins bon qu'auparavant. Honnêtement, Lyon, je trouve que... Et quand bien même ils se qualifient, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et après, bon, si on ne va pas refaire les émissions de il y a 3-4 mois, mais pour moi, comme je l'avais dit, je n'avais pas été le seul à le penser, mais virer Pierre Sage, à ce moment donné, ça a été pour moi une mauvaise chose. Une mauvaise chose, surtout, ça va me donner raison si Lyon ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Après, concernant l'Olympique de Marseille, moi je suis d'accord avec Jason, c'est-à-dire que c'est pas un mauvais résultat en soi de faire un match nul à Lille, surtout que t'as encore ton destin entre tes mains. On peut pas forcément vouloir à Rouli parce que comme a dit Salson, si tu regardes les matchs de Marseille, il a sauvé un tas de fois Marseille et franchement il fait une boulette au pire moment, mais c'est pas non plus le truc.
C'est parce qu'il leur coûte place de deuxième, c'est parce qu'il leur coûte la place.
Après il y a Strasbourg qui est en embuscade, ouais. qui ont battu le Paris Saint-Germain. Félicitations à eux déjà, mais ils sont en embuscade et eux ils peuvent par contre vraiment croire en leur chance, parce que je crois qu'ils jouent contre
Angers.
Angers et
ils vont à Angers et ensuite à domicile contre le Havre.
Ouais, c'est ça, Angers et le Havre. Donc franchement,
ça sera pas facile parce que c'est des équipes qui jouent leur survie.
Mais quand tu vois le calendrier du Havre, parce que le Havre ils vont jouer contre Marseille. Voilà.
Ouais, t'as Strasbourg qui prend 40 points en 2025 quand même.
Ouais, donc franchement,
c'est plus que le PSG. Donc c'est...
ouais. Ouais, non, franchement, c'est une jolie équipe Strasbourg. Après, pour le bien de la Ligue 1, j'aimerais pas les voir en Ligue des Champions.
Ah bon?
Pour le bien du championnat de France, les voir en Ligue des Champions, non, je préfère pas.
On disait
la même chose côté Brest 3, ils nous ont surpris.
Ouais, mais je suis d'accord.
On disait la même chose l'année dernière côté Brest 3. Moi franchement, cette équipe-là, moi j'aimerais bien. C'est une équipe jeune qui propose du bon football. Je préfère plus Strasbourg que Nice, en tout cas en vue de ce que Nice propose.
Je suis d'accord, je vois son point de vue, parce que je pense pas que les joueurs de Strasbourg, ils vont tous rester l'année prochaine.
Moi je pense que c'est possible, comme en fait ça a été repris. Oui, mais comme ça a été repris, je pense qu'il peut les laisser dans cette dynamique où
comme Brest, en fait, c'est bien de se qualifier pour la Ligue des Champions, ça fait du bien au compte, à l'image du club, etc. Mais la saison d'après, elle est souvent très compliquée.
Ah, mais regarde Nice, ils nous font quoi au final? Ouais, 0 points.
Non, mais Nice, franchement,
t'as vu 8 matchs, 0 points.
C'est une catastrophe.
J'ai pas envie d'être vulgaire.
Nice, c'est pas le coup de rien pour aller, ça sert à rien. Non, après, moi, je pense que s'ils gardent le même effectif et les mêmes idées, on peut espérer une petite folie. Mais si.
Ouais, mais tu vois, moi, j'en ai marre d'espérer des petites folies au bout d'un moment. C'est insupportable, en fait.
Tu peux pas.
Au bout d'un moment, il faut. Normalement, quand t'es en Ligue 1, enfin, normalement, je veux dire, dans la continuité du championnat dans les 10 dernières années, prochaines années, normalement, tu dois avoir Paris, Lyon, Marseille et Monaco toujours dans les 4 premières places.
Exactement.
Si t'as pas ces équipes-là dans les 4 premières places avec des Lille, des Rennes en embuscade et pourquoi pas des Strasbourg, des Brest, peu importe, ou des Lens.
Mais à qui est la faute?
Ouais, mais ça, au final, en fait.
Apparemment, le PSG fausse le championnat, mais si ces équipes-là n'arrivent pas à s'imposer, on peut rien y faire.
C'est le prétexte. Ça, c'est l'un des plus gros mensonges que j'ai entendu.
Non, mais ça, je connais, je comprends pas le rapport.
Je sais.
Il y a 102 points possibles à prendre dans le championnat.
Comme Habib Bey, il a résumé parfaitement la situation. Quand t'es une équipe, t'affrontes deux fois dans l'année. Au bout d'un moment, si t'es pas fichu de prendre les points qui te restent à prendre, c'est pas de la faute.
3-0 à Angers, c'est pas mon problème.
Après, j'ai entendu, il fausse le championnat parce que Paris perd contre Strasbourg. Non, ils ont un match à préparer en Ligue des Champions.
Il a aligné une équipe qui est potable.
Ok, il a fait jouer des jeunes, mais ils sont champions. C'est pas de la faute de Paris s'ils sont champions à 5 journées de la fin. Ils y sont pour rien. Ils ont fait leur taf. Mais tout ça pour dire que, en fait, au final, cette saison de Ligue 1, elle est bien dans le suspense. Il y a des matchs qui étaient très intéressants. On se souvient de pas mal de matchs, mais je trouve que, en fait, elle progresse pas. Dans le long terme, elle ne progresse pas. Des équipes comme Monaco, moi j'en ai marre de parler d'elles à chaque fois parce qu'elles ne progressent pas. Elles sont inintéressantes, les équipes comme Monaco. Tu ne sais jamais ce qu'elles veulent réellement. Elles vont en Ligue des Champions, elles ne vont pas en Ligue des Champions.
Parce qu'il n'y a pas de continuité.
En barrage, il n'y a aucune continuité, il n'y a aucun projet sportif. Tu as des clubs qui sont au bord du gouffre et les droits télé, ils sont catastrophiques. Enfin, je ne sais pas, moi je suis mitigé en fait.
La Ligue 1 a des problèmes.
Vraiment des problèmes. Après, dans le suspense et tout.
Si le produit il était mieux mis en valeur, franchement, ça pourrait être une super fin de championnat. Mais là, tu vois, ça va être sur DAZN. Franchement, la moitié des gens vont le regarder en streaming. Tout le monde s'en fout, en fait. Je sais, est-ce qu'ils ont prévu de faire le traditionnel multiplex ? Je sais même pas.
Je sais même pas.
Je sais pas. Franchement, c'est là, le produit il est mal vendu. Alors que pourtant, la fin de championnat, elle est plutôt alléchante.
C'est ça.
Merci, Alexandre.
Je suis pessimiste après, mais je prends du plaisir des fois devant les matchs de Ligue 1. Mais c'est juste que quand tu regardes un peu ce qui se fait ailleurs, même si bon, la PL c'était un peu moins bien cette année, mais en général, le niveau de la PL, le niveau de la Liga, il est quand même beaucoup plus élevé que le niveau de la Ligue 1.
Ça a toujours été le cas.
Ouais. Même au Portugal, c'est mieux. Ouais,
on va parler. Voilà pour la Ligue 1, le Paris Saint-Germain premier avec 78 points champion, Marseille deuxième avec 59 points, Monaco avec 58 points troisième, quatrième Nice avec 57 points à égalité avec Lille et Strasbourg jusqu'à la sixième place, et Lyon qui ont réalisé la mauvaise opération qui sont à 54 points septième. On va enchaîner tout simplement avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on y revient tout de suite. Le Paris Saint-Germain, oui, le Paris Saint-Germain sont imposés à domicile, presque à domicile, hein, c'est devenu une habitude hein, de s'imposer en Angleterre du moins, et ils sont imposés à l'Emirates Stadium, 1-0, grâce à un but de Ousmane Dembélé. Les Parisiens devront tenir un match nul, ou au pire un match nul, sinon même ils peuvent gagner à domicile pour s'assurer tout simplement de la finale de Ligue des Champions à Munich, le 29 mai prochain, c'est ça ? C'est le 29, c'est le 27 ?
29.
Bon, c'est pas grave, peu importe, on y reviendra, on vous le dira plus tard. Mais en tout cas, c'est à la fin du mois de mai.
Raison, je crois que c'est le 29.
Ok, bah voilà, c'est le 29. Et du coup, voilà. Et on a eu aussi un super match entre l'Inter de Milan face au Barcelonais. 3-3 lors d'un match spectaculaire. Hein, le Barça qui devront s'imposer à San Siro pour aller en finale 10 ans après leur dernier sacre en Ligue des Champions. Et Inter qui ont fait une finale il y a 2 ans et qui peuvent y retourner pour cette fois-ci essayer de renverser la tendance. Quelles sont vos analyses sur ces demi-finales allées de Ligue des Champions, Lucas ?
Bah, les demi-finales aller de Ligue des Champions, c'est toujours aussi spectaculaire et aussi beau à voir. Moi, je pense que la surprise, ça a été... Les deux matchs ont été une surprise. On ne s'attendait pas, je pense, à avoir un match 3-3 de Inter-Milan. Pardon, Barcelone-Milan. Je pense qu'il y a le côté aussi... le côté où il y a par exemple pour le PSG aussi, on va dire que il y a ça aussi, c'est un résultat qu'on n'attendait pas, et je pense que même si je pense que l'équipe du PSG est actuellement la plus complète et la plus la plus armée pour aller en finale. En plus, ça faisait depuis longtemps qu'il n'y avait pas eu aussi un banc, par exemple. Que le côté banc de touche, où il n'y a jamais vraiment eu de banc au Paris Saint-Germain. Je pense que ça peut aussi faire les différences. Après, pour Inter, Milan et Barcelone, ça va jouer, je pense, à des détails. La qualification, mais je donnerais un avantage
au
Barça.
C'est ça.
Je pense, ouais, au Barça.
Et de l'autre côté, le Paris Saint-Germain.
Au Paris Saint-Germain.
Donc tu vois une finale Barça-Paris Saint-Germain.
C'est ça.
Et une victoire finale pour...
Attention à ce que tu vas dire. Hein. Attention, Lucas. Hein. Fais très attention. Fais attention. Hein.
Le PSG.
Merci, Lucas. Merci. Okay. On l'espère.
Du coup, Salson, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Franchement, belle journée de Ligue des Champions. Hein. C'était les phases allées. Franchement, c'est régalé. Surtout du côté du Paris Saint-Germain. Le match, il était waouh. Ça allait dans tous les sens. Même PSG, ils auraient pu, sur la fin,
Ah, même sur le début, hein, même des ouais, doués, hein, Raya qui sort une parade à contre-pied.
Je parle de la fin, parce que je pense à la barre de Ramos, le face à rien, face à face de Barcola. Ça allait dans tous ouais, les sens. Ouais. Ça allait franchement. C'est bon, c'est un bon résultat, ça reste un bon résultat à l'extérieur. Maintenant, à domicile, il faudra faire le boulot. Mais bon, j'ai toujours peur de ce Paris Saint-Germain. On ne sait pas, comme Philippe dit, les vieux démons peuvent toujours ressurgir. Parce que tu as vu, tu joues à domicile. T'as un avantage de 1-0 et ça, le Paris Saint-Germain, ils arrivent à, des fois à nous surprendre. Donc, on va attendre mercredi gentiment. Et pour ce qui est du Barça-Inter, c'était un match exceptionnel. Exceptionnel, surtout un gros big up à Lamine Yamal qui est en train de traumatiser des papas sur les terrains de football tous les week-ends et même la semaine. C'est incroyable. Il est en train d'élever son niveau de jeu. Même arrivé à ce stade de la compétition, il est toujours aussi performant et il porte pour moi, il porte l'FC Barcelone. Il porte l'FC Barcelone. C'est un leader offensif. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Personne ne peut dire le contraire. Maintenant, pour ce qui est. Franchement, après moi, l'Inter, je n'étais pas étonné de leur prestation. Après, je pense que l'Inter a mal joué le coup. C'est-à-dire, ils auraient dû. Moi, je pense. Ils ont continué d'attaquer à s'ouvrir.
À 2-0.
À 2-0, je pense qu'ils auraient dû fermer un peu. Et ils sont à l'extérieur, ils s'en foutent. Voilà, et ils viennent à domicile, ils font ce qu'ils ont à faire. Malheureusement, bon, voilà, on ne va pas les empêcher, on va pas les accaper d'avoir joué au football. Maintenant, à San Siro, je pense que ça va être différent. Personnellement, il y a un avantage pour l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, il ne faut pas les enterrer. Ils font un parcours très discret, mais ils sont très costauds. Et franchement, ça va être difficile en Italie d'aller les titiller pour laisser Barcelone.
On est obligé de repenser à ce but de Mkhitaryan de quelques millimètres, hein, ça s'est joué d'une pointe de chaussure. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alexandre, puisqu'on en parlait la semaine d'avant et tu voyais absolument pas l'Inter tenir tête à ce FC Barcelone, et aujourd'hui il y a 3-3 et le match retour se joue à San Siro. T'es toujours aussi à l'aise, tu te dis toujours aussi au retour, même chez eux à San Siro, le Barça vont les écraser et ça va être comme ça et pas autrement.
Ouais, j'avais dit 2-0 pour le Barça à l'aller. Mais déjà, je pense que vous avez dû prendre beaucoup de plaisir à suivre en tant qu'observateur neutre.
Bien évidemment. Un bon match de football où il y a 3-3.
Non, surtout que les buts, ils sont quand même...
Ils sont magnifiques.
Mais en fait, franchement, il y a trop de choses à dire sur ce match, mais je vais essayer de faire court. Ouais. En vérité, opposition de style en vrai. Hein. Opposition de style, et à chaque fois qu'il y a des Barça Inter, ça donne souvent des matchs des matchs intéressants à voir tactiquement, parce que là on est quand même face à deux coachs de très très haut niveau, hein. Franchement, Inzaghi, il connaît parfaitement son groupe anti-flic, il exploite au maximum avec ce qu'il a, et même les changements des deux côtés, ils apportent tout le temps une plus-value, alors pourtant c'est pas évident parce que t'as Lautaro qui se blesse, t'as Koundé qui se blesse, tu dois les remplacer. T'as des absents côté Inter.
Je voulais m'arrêter là, excuse-moi, mais oui. La perte de Koundé, est-ce que c'est pas un gros pépin?
Alors moi, je vais te dire que
défensivement,
on n'en parle pas énormément, mais franchement, c'est une grosse perte. Et j'irais même plus loin, je dirais que la plus grosse perte, c'est celle de Baldé, qui n'a ni joué l'aller, qui ne va même pas jouer le retour, parce que vous avez des yeux.
Gérard
Martin, c'est pas non plus assurance touriste, comme on dit. Et c'est surtout que je vois pas trop de gens en parler, mais Barcelone, ils ont fait la deuxième mi-temps à 4 défenseurs centraux. Eric Garcia qui a dépanné Koundé, qui a pris la place de Koundé à droite. Araujo, Kubarsi et Inigo Martinez qui a pris la place de Gérard Martin dès la mi-temps, parce que Gérard Martin, il était pas très bon. Et c'est surtout qu'il y a eu le retour de Christensen qui n'avait pas joué depuis 6 mois. Et le mec, là, tu vois, quand il flic, vraiment, c'est vraiment un gros coach, parce qu'il le fait confiance en demi-finale de Ligue des Champions. Il le met direct à la place de Kubarsi. Franchement, c'est tout ce genre de détails qui voient que c'est vraiment du haut niveau. Après, si on s'attarde juste sur le match, l'Inter ultra réaliste, en fait. Ils ont fait 3 frappes cadrées, 3 buts. Voilà, 2 buts sur coup de pied arrêté. Et ça aurait pu être 4-3, comme tu l'as dit, parce que Mkhitaryan, ça se joue si chaussé du 36, même pas du 41, il n'y aurait pas eu hors-jeu. Franchement, ça se joue vraiment de peu, mais finalement, quand tu vois le match, en fait, le Barça, en soi, ils dominent, ils ont plus d'occasions, ils ont plus de situations, mais ils se font piéger, en fait. Ils se font piéger, et c'est des erreurs que l'Inter, en fait, c'était l'équipe qui allait causer des problèmes à Barcelone.
C'était dit, c'était écrit et ils l'ont très bien joué.
C'est exactement ce que je disais.
Ils ont ultra bien travaillé à la vidéo, ça se voit. Le piège du hors-jeu, ils l'ont très bien déjoué par Di Marco et surtout Dumfries, du coup. Surtout dès le premier but.
Dumfries sur les côtés, j'ai dit que ça allait aller. Regarde, Dumfries de retour. J'avais annoncé le retour de Dumfries, il allait faire mal. Et le retour de Marcus Thuram aussi.
Après, Marcus Thuram, il fait un match.
Il fait un très bon match, quoi.
Il revient de blessure. Hein.
Oui, il se sentait vraiment pas bien à la fin du match. Ah ouais. C'est là que tu vois que le match, il a vraiment été d'un très très haut niveau. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que tu te prends un but au bout de 40 secondes, mais il y a une glissade d'Inigo Martinez aussi qui impacte énormément. En plus, c'est sur le côté de Gérard Martin qui s'est passé bêtement. Et là où je suis d'accord avec toi que l'Inter était l'équipe qui pouvait causer potentiellement autant de problèmes à Barcelone, je suis d'accord, la preuve, ils en mettent 3. Mais à l'inverse, Barcelone, ils en mettent 3 aussi, tu vois. Alors que l'Inter, c'était la meilleure défense.
Mais moi, ça m'étonne pas que le Barça en mette 3. Parce que ça allait être un jeu ouvert. Moi, pour moi, j'étais persuadé que ça allait être un jeu ouvert.
Pareil aussi.
Ça allait être un jeu ouvert et que ça pouvait plus être un 0-0
fermé.
C'est
étonnant. Ils ont pris quoi à l'Inter ? 5 buts sur toute la campagne. Et là, ils en prennent 3 en un match. Et en plus, déjà, c'est des buts magnifiques. Et en plus de ça, je sais plus ce que je voulais dire. Mais tout ça pour dire que, voilà, je sais pas.
Je suis pas pessimiste
en fait. Ah oui, c'est ce qui m'a marqué en fait, c'est la capacité du Barça à retourner le match en fait, et que c'est grâce notamment à Lamine Yamal qui a sonné la révolte, mais qu'il a 17 ans, il sonne la révolte, mais t'en prends 2-0 en 25 minutes chez toi. Le Barça d'avant, vous savez très bien, ils s'en seraient pris 5. La vérité, ils s'en seraient pris 5.
Après cette saison, le Barça, ils sont capables de remonter n'importe quelle équipe.
Ils l'ont fait plusieurs fois. Donc du coup, franchement, c'est là où je me dis que match retour 50-50, pareil. 50-50 pour moi.
Non, pas pareil, parce qu'à l'aller, c'était pas du 50-50.
Non, mais je veux dire pareil qu'au match aller, vu qu'il y a eu 3 partout.
T'es vraiment sérieux quand tu dis 50-50 ou c'est en tant que supporter que tu dis ça?
Non, je suis sérieux, parce qu'en vrai, l'Inter, ils ont autant de chance que le Barça finalement.
Non, je peux pas dire
l'Inter,
ça.
Ils ont autant de chance que le Barça. Regarde,
non, lui, il dit ça, je pense qu'il dit que l'Inter ont plus de chance que le Barça.
Oui, je sais.
De gagner à domicile.
Mais je te dis pas que le Barça va pas faire quelque chose, je sais aussi.
Mais t'as déjà
dans la situation où on en est, pour moi, l'Inter, ils sont favoris.
Après, les beatmakers, ils sont favoris, il me semble.
C'est normal, comme ils sont à domicile.
Oui, pour moi, ça joue du 55-45 à la rigueur, si tu préfères.
Franchement, 50-50 pour moi. Je dis pas que je suis serein ou quoi.
Pour moi, limite, c'est
du
60-40.
Non.
Limite.
Après, peut-être qu'ils vont se qualifier, l'Inter, et bravo à eux, il n'y a pas de souci. Mais le Barça,
moi, j'ai toujours dit, ça fait un petit moment, je le dis, moi, je vois
pas les enterrer.
Je vois un PSG Inter depuis un moment.
Faut pas les enterrer, le Barça.
Je n'enterre personne. Franchement, cette saison, ils nous ont surpris. Donc, je pense qu'ils peuvent nous surprendre encore.
Il suffit que le petit soit dans un bon jour, là. T'inquiète pas.
Il est pas dans le bon jour,
t'inquiète pas. Il y a l'autre petit qui va s'en occuper, Pedri, t'inquiète pas.
Ouais, mais bon, il est oublié de terre, mais il peut pas tout faire non plus.
Jason, habillé en noir et or, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la prestation du Paris Saint-Germain face à Arsenal, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du Paris Saint-Germain face à Arsenal. Qu'est-ce que t'en as pensé
franchement,
de cette performance?
La performance du Paris Saint-Germain, je m'y attendais à ce qu'il fasse un gros match, mais un match comme ça, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit en Angleterre, ça allait être compliqué, surtout Arsenal qui perd pas souvent à domicile. Je me suis dit, d'accord,
en Ligue des Champions en domicile.
C'est ça. Et je me suis dit, bon, ils ont passé Liverpool, ils ont passé City, ils ont passé Aston Villa. Je me suis dit, bon, Arsenal, ils vont quand même peut-être trébucher ou être accrochés. Mais non, le Paris Saint-Germain, t'as sorti un match XXL. Les Gunners n'ont pas existé. Ils ont eu quelques sursauts, quelques occasions.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Ils ont eu deux, trois occasions.
Entre la première, tu as vu, entre la
fin
de la mi-temps et le retour de la mi-temps, surtout quand ils mettent le but hors jeu, en ce moment-là, pendant au moins une trentaine de minutes, tu as Arsenal, ils ont fait peur quand même. Ça commence à remonter.
Ils ont eu deux, trois occasions.
Donnarumma, il fait un gros match. Excusez-moi, pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Donnarumma, il fait un gros match. Mais moi, je ne parle pas de situation. Je parle d'occasion.
Ouais.
Donc si on regarde, même si tu peux regarder la feuille de stats, sur les occasions, c'est Paris qui est devant.
Ouais, ils n'ont pas beaucoup d'occasions.
En expected goal, c'est Arsenal qui est devant.
Je te dis pas contre.
Oui, en expected goal,
parce qu'ils ont eu plus de face-à-face. Ouais. Mais dans les occasions créées, le PSG est devant. Et le PSG a eu plus de situations. Quand on regarde le match concrètement, tu te dis le PSG ils pouvaient en mettre deux ou trois.
Oui, facile, comme j'ai dit.
Comme je dis. Et Arsenal a eu, est tombé face à un gros Donnarumma. Ça, c'est sûr, parce que depuis qu'il a été critiqué, on va dire même depuis qu'il a mangé le coup de Singo, j'ai l'impression qu'il est, il est redevenu quelqu'un d'autre. Et là, ce match-là, le PSG, que ce soit au milieu de terrain, en attaque et en défense, tu sens un bloc équipe et un rouleau compresseur qui ne se laisse pas marcher dessus et qui est prêt à battre tout le monde. Et là, je me suis dit, s'ils sortent Arsenal, ça devient les rois d'Angleterre. On ne pourra rien dire. Ils auront tapé tous les gros d'Angleterre.
Et là, on peut dire que c'est les rois d'Angleterre.
Ah oui. Là, on pourra dire que
Manchester City, le top 3, top 4, ils l'ont tapé.
Ils ont battu tout le monde.
Voilà. On pourra arrêter de dire que le PSG n'a pas le niveau de la Première Ligue au bout d'un moment.
Après le match retour, bien sûr, le match n'est pas terminé.
Même en vue de ce qu'on a vu, on peut pas dire qu'ils ont pas le niveau de la PL quand même.
Non, mais attends, faut pas oublier qu'il y a des absents Arsenal. Hein, parce que là, je vois,
c'est pas un problème. Ça. Ouais,
non, bien sûr, non, si, c'est un problème. Attends, mais regarde, tu joues toute la saison avec un 11 ou avec un 12-13 et tu vois, t'as 3 joueurs de ton 12-13 qui manquent.
Et attention, parce que t'as vu ça là, ce que tu dis encore une fois, j'ai dit le PSG est à domicile et les absents du côté d'Arsenal, ça me rappelle des mauvais souvenirs tout ça.
Hein? Après Gabriel, ça fait un moment qu'il est absent.
Attention. À United, ils vont avec tous les jeunes les moins de 23 ans, ils nous tapent là-bas.
Après, là, pour moi, c'est pas un, y a rien, c'est pas un scandale si Arsenal vient battre Paris. Hein,
c'est pas un scandale, mais.
Tu parles d'Arsenal, qui c'est une équipe qui joue très bien au foot, et moi, je suis pas du tout d'accord avec l'analyse.
C'est du gâchis pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est du grand gâchis.
Oui, parce que tu gagnes 1-0 à l'extérieur, donc bien sûr.
C'est en demi-finale, tu gagnes 1-0 à l'extérieur, t'es chez toi, tu peux pas.
Franchement, tu peux pas oublier que Donnarumma, ça a été l'homme du match de l'aller. Oui. Là, je vois, j'entends.
Ça a été Vitinha en plus. C'est Vitinha qui l'a décerné à Donnarumma. Ouais,
c'est vrai. Et Ousmane aurait joué les 90 minutes, je suis sûr qu'ils l'auront donné à Ousmane.
Franchement, je sais pas. J'entends que des. Ouais, Paris a surclassé Arsenal.
Non, pas surclassé.
Franchement, en fait, moi, je peux comprendre dans quel sens.
Paris a fait le match parfait.
Quand tu regardes Arsenal.
On a vu le même match.
Si,
après le match, ils ont fait parfait.
Il était parfait le match, excuse-moi, mais il était parfait le match.
Il est parfait si tu gagnes 2-0. Là, il est pas parfait. Tu gagnes que 1-0.
Mais oui, gagner déjà l'extérieur
dans le sens où tu gagnes là-bas et tu défends.
Raya, en fait, il fait des bons arrêts, mais Donnarumma aussi, il en fait des bons arrêts. Oui. Hein. Martinelli, il loupe des grosses situations.
Faut pas oublier
que t'as pas Thomas Partey, que
Barcola et Gonçalo Ramos,
il est obligé de redescendre.
Gonçalo Ramos et Barcola, ils loupent des aussi gros face à face.
Oui, mais c'est pour ça que ça se joue sur des détails. Faut pas oublier que le but, il vient au bout de 5 minutes de jeu. Donc je suis désolé, mais ça fausse forcément le match. Parce que du coup, Arsenal, il pousse beaucoup plus et Paris.
Excuse-moi, mais si, mais attends, mais tu provoques quelque chose. Si tu marques au bout de 5 minutes, que ça soit à la 5e ou à la 30e minute.
Oui.
Après, il ne faut pas s'attendre aussi à des miracles de Martinelli. On sait très bien que c'est un joueur inconstant.
C'est un joueur inconstant.
Ils n'ont pas de neuf Arsenal là. Parce que regarde, c'est contre, ça le problème. Contre le Real, c'est Merino qui jouait.
Depuis un moment, c'est Merino.
Qui joue en faux neuf. Mais là, regarde, là, ça a été Martinelli avec Saka et.
Merino.
Non,
et Trossard.
Et Trossard et Merino, du coup, il a pris la place de Partey au milieu de terrain avec Declan.
Ah oui, après l'absence de Partey, ça a été.
Moi, je pense que c'est ça. C'est l'absence de Partey qui a été négligé, c'est ce qui a fait.
Ça se voit. Sauf que, mine de rien, 30 minutes, les premières 30 minutes de Paris, rien à dire. Moi, je regardais le match, je me disais, ah ouais, franchement, Paris, grosse cylindrée européenne, rien à dire. Mais tu vois, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, Arsenal, il commence à revenir petit à petit. Et en deuxième mi-temps, comme il a dit Salson, t'as 30 minutes où t'as Arsenal qui pousse énormément. Et t'as autant de situations, bon, peut-être un petit peu plus de situations franches pour Paris, je suis d'accord, mais t'as autant de situations pour Paris que pour Arsenal. Donnarumma, il fait des très bons arrêts. La seule différence avec les autres années, et comme je l'ai dit ici auparavant, c'est que Paris, ils ont appris à ne pas encaisser de but dans leur temps faible. Et ça,
on l'a vu à Liverpool, ça, je l'ai vu.
Ouais, exactement.
T'as l'impression que même dans le temps faible, tu sens qu'ils arrivent à.
Il y a une petite maîtrise, il n'y a pas de panique.
Voilà, il n'y a pas de panique. Tu vois.
Et c'est là que tu vois
qu'ils ont passé un cap. Et c'est ça qui est manqué au Paris Saint-Germain.
Après, ce que vous devez vous dire, c'est que c'est tout à fait normal de concéder quelques occasions à l'extérieur.
Non, c'est normal.
De toute façon, avec le jeu que tu proposes, c'est obligé déjà de concéder des occasions. C'est obligé. Mais pour revenir à cette équipe d'Arsenal que je vois beaucoup jouer en PL, Arsenal est une équipe qui peut pousser. Il y a des matchs où tu sais qu'ils ne vont pas marquer un but. Tu sais, ils jouent contre Everton ou quoi? Non, il y a des matchs, tu sais, ils vont terminer le match à 30, ils vont terminer le match, ils vont terminer le match à 30 buts, à 30 tirs, 30 tirs, 20 cadrés, ils vont pas mettre un but. Contre Everton, dès la mi-temps, tu vois, ils poussent, ils poussent,
ils poussent. Ils ont un jeu stérile.
Mais voilà, c'est, ils ont une possession de balle, ils ont des situations, mais c'est pas des.
Non, ils ont un jeu stérile.
Ils ont un jeu stérile, ça va pas au bout. C'est pas centre, ça tire.
Même si tu regardes le match de ce week-end, ils ont pas de buteur. C'est un jeu stérile.
Depuis Giroud, est-ce qu'ils ont un vrai buteur?
Il y a eu Jesus, mais.
Gabriel Jesus, il a confirmé qu'il a mis un triplé contre Crystal Palace en.
T'as eu la casette.
En FA Cup après ça.
Mais je veux dire, le dernier buteur, c'est, pour moi, c'est Giroud.
C'est Welbeck, je crois.
Tony Walcott.
Après, concernant l'Inter Barcelone, ça a été un très, très, très gros match. J'ai bien aimé, en tout cas, en tant que spectateur, ça a été un très bon match. Et
en tant que spectateur,
en tant que spectateur, en tant que spectateur, ça a été un très bon match. Le Barça s'est fait surprendre, comme beaucoup de personnes ont été étonnées, parce que peu de personnes voyaient peut-être l'Inter faire quelque chose chez Barcelone. Et le truc, c'est que l'Inter a essayé de canaliser le Barça, mais quand ils ont levé la révolte, c'était trop compliqué. Tu voyais ça dézonner dans tous les sens. Il y avait des vagues, des vagues, des vagues. Ouais. Les interistes, ils n'y arrivaient plus. Donc, certes, ils auraient pu essayer de conserver le score. Mais quand tu essaies de conserver le score et que tu es débordé, surtout par un Lamine Yamal en feu, mais Di Marco, il a tout vécu. Il a vécu 3 vies sur ce match-là. Il est parti dans le passé, il est revenu dans le futur. Il est parti dans le futur, il a tout fait. Et une fois que le premier but, il est passé, à l'Inter, c'était compliqué. Ils ont réencaissé un autre.
En fait, c'est le troisième but de l'Inter qui a tout changé.
Exactement.
Et il arrive au pire moment pour le Barça.
Parce que le Barça,
il
poussait.
Meilleur moment pour l'Inter. Il poussait. Et sur un coup de pied arrêté ou ouais, bref.
Les personne s'y attendait, mais c'est là que tu vois que, aussi quand tu vois les joueurs de l'Inter, ils font tous 1m90.
Et ils mettent Olmo pour Dumfries et Gérard Martin aussi sur Dumfries au premier but. Franchement, c'est mal
Dumfries
travaillé.
Qui revient de blessure quand même, qui claque un doublé
contre...
Il a fait un très bon match.
Et c'est vraiment, il n'avait pas les 90 minutes aussi dans les pieds, parce que sinon, même à la fin, tu sais que c'est des mecs sur le côté. C'est ce que je disais depuis le début. Je disais que sur le côté, tu mettais les Barella, Dumfries, sur le côté, ça va très très
après,
vite.
Après, en règle générale, ils ne jouent jamais 90 minutes les deux.
Oui,
mais ça dépend du match aussi. Ils vont jouer jusqu'à... En tout cas, ils vont bien pousser.
Oui,
quoi,
ils vont jouer au moins 70 minutes, ouais. Grosso modo, parce que d'habitude, Di Marco, moi, j'ai été choqué qu'il sorte aussitôt. C'est parce qu'il a été très mal mené, parce qu'habituellement, il sort toujours vers la 60-65e. Là, il a sorti à la 55e.
Mais tu vois, c'est là que tu vois que c'est un grand coach, Inzaghi, parce qu'il n'a pas hésité. Il y a plein
il
de
a pas attendu.
Combien de coachs ils auraient hésité à hésiter Di Marco, parce que machin. Là, il n'a pas hésité, il a fait rentrer.
Et il savait aussi que c'était un poste clé. Il sait que c'est des postes où il faut faire rentrer des gens qui courent et qui sont frais. Parce que dès qu'ils courent, qu'est-ce qu'ils font? La première chose à faire, ils centrent. Vous avez vu le centre, Szczęsny ne peut pas intervenir.
Non.
Szczęsny ne peut pas intervenir, de l'autre côté, ça coupe. Ils savent très bien comment ça se passe.
Pour moi, Szczęsny, il n'est pas fautif, mais un peu responsable.
Moi, je dirais
sur deux buts.
Fautif, en tout cas.
Le corner où il hésite un peu à sortir.
Ouais, sur le corner.
C'est Donnarumma, ça, on dit, il ne sort pas. Pourquoi il ne sort pas? Il ne va pas à la pêche.
Faut dire aussi, Szczęsny,
faut dire, c'est la même chose. Il ne sort pas, il doit sortir. C'est dans ses 5 mètres. Pour
toi, il la prend tranquille, celle-là, tu vois, par exemple. Mais ouais. Franchement. Ah ouais, il faut dire aussi que l'Inter, il joue quasi à 10, hein, parce que Lautaro, il fait 30 minutes mauvaise, l'entrée d'Adeyemi, elle est insuffisante.
Et même ça, quand il est blessé après, il joue 5 minutes vers la fin où il est blessé, de la première période, où il est blessé.
Mais même là,
il n'arrive même pas à défendre.
Ouais, mais c'est pour ça que pour le match retour, comme je vous ai dit hors antenne, si il n'y a pas la paire Lautaro, tu rames. Ça peut être très difficile devant.
Il sera là, je crois.
S'il est là pour jouer 20 minutes et se tenir la cuisse au bout de 20 minutes, c'est pas vraiment être là.
Il va jouer sous injection.
Donc, c'est ça le truc. Et que le Barça... Après, il y a des désavantages des deux côtés. C'est que le Barça, ils vont avoir une défense démunie et l'attaque de l'Inter sera peut-être démunie. Donc, ça va faire un équilibrage au niveau du match.
Moi, je pense que Marcus Thuram, il sait choisir ses moments. Et il sait que
il
n'a
pas 90 minutes dans les jambes. C'est ça le souci. C'est comme on l'a vu.
Il a joué 90 minutes ce week-end.
Il n'a pas joué.
Non, il n'a pas joué. Il n'a même pas joué du tout. Équipe B.
Ouais.
Ils ont mis une totale équipe B.
Il y avait Arnautovic, Sarami, je crois.
Et Thuram, vous avez bien vu, à partir de la 60e, il était cramé. Donc, il y a même une passe en profondeur. Si il n'aurait pas eu ces deux semaines d'absence, il va au but. Et vous avez vu Kobarsi, comment il est revenu sur lui.
Incroyable.
Donc, c'est que Thuram, il aura peut-être 60-70 minutes sur le match retour. Mais un Taremi et un Arnautovic, on ne peut pas compter trop sur eux. C'est trop insuffisant, ça ne court pas, c'est âgé, c'est trop mobile, c'est... Tu vois, c'est, ça bouge pas assez.
Taremi de Porto, moi, je le voyais très très
bien. Mais il ne faut pas comparer Porto et l'Inter.
Non, c'est vrai.
Porto, c'est. Regarde, même Mitroglou à Benfica, c'était The Tueur.
Après, il y a une grosse différence entre l'Inter et Barcelone. C'est que. Bon, une grosse, peut-être pas, parce que l'Inter, ils ont encore un petit peu à jouer. Mais c'est que l'Inter, là, ils perdent beaucoup de points.
Enfin, le championnat, il est plié.
Voilà.
Le championnat est plié.
À mon avis, Naples, ils vont rien. Alors que Barcelone, justement. Là, ils ont une semaine de la mort, parce qu'ils jouent le Real dimanche. Et ils ont encore après des matchs importants.
Même moi, je pense que le Barça, ça le fait. Côté championnat,
non,
franchement,
ce que je veux dire,
c'est
que du coup, ils ont la tête aux deux trucs.
Ils doivent même pas avoir. En vrai, normalement, si Hansi Flick a un bon discours, ils doivent même pas. Tu joues le Real, t'as un match nul, tu conserves tes 4 points, il te reste 3 journées, c'est fini.
Après, ce week-end, il a fait tourner le Barça. Il a tous fait rentrer à la mi-temps.
Non, parce que.
Après, parce qu'il perdait.
Voilà, c'est ça.
Il a fait tourner, mais tu vois, c'est là que tu vois que l'effectif, il est ultra limité parce qu'il a été obligé de faire rentrer. Lamine Yamal, Rafinha.
Après, Yamal, il est rentré parce qu'il y a une blessure.
Il avait dit le
qui
plan,
s'est
c'est.
Le petit, un jeune.
Ouais, Dani Rodriguez. Parce que le plan, c'était de les faire jouer 20 minutes, etc. Mais parce que physiquement, le Barça, ils sont ultra empruntés.
Je pense que c'est pas que le Barça.
C'est
la plupart des équipes.
La plupart des équipes, je suis d'accord, mais le Barça, ils ont.
Tu te rends compte le nombre de matchs qu'on a regardé. Et dis-toi, t'as encore la Coupe du Monde des clubs qui va arriver.
Le Barça, encore, il la joue pas.
Ouais, mais
c'est pour ça,
tu vois,
c'est
les équipes comme le Paris Saint-Germain. Là, le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de blessés. Il n'y a pas trop de blessés.
Parce qu'il
là,
fait tourner.
Après, l'avantage de Paris, de l'Inter, et non, pas moins d'Arsenal, du coup, c'est que ces deux-là, ils ont quand même un effectif.
Ils ont un banc.
Qui ont plus étoffé. Alors que tu vois Barcelone, ils galèrent contre Valladolid quand ils font tourner. Et Arsenal, ils galèrent quand il y a 2-3 blessés, tu vois.
Après, regardez, Inzaghi, il a dit qu'il faisait tourner pour essayer de gagner les 3 trophées. Mais il ne faut pas qu'il se retrouve à ne rien gagner.
Au final, ils ont perdu la Coupe d'Italie.
La Coupe d'Italie, le championnat, c'est cuivre les adversaires que l'Inter va affronter ces prochaines semaines. L'Inter, attends, je vais te dire ça.
Est-ce qu'ils n'ont pas un petit AS Rome, un petit.
L'AS Rome, ils ont.
Non, je sais pas.
Ils ont déjà joué contre l'AS Rome.
Ils ont perdu.
Ouais.
Ah, bah voilà.
L'Inter, ils vont chez Torino, ils reçoivent la Lazio et ils vont à Com. Comme c'est pas facile, le Torino c'est l'équipe des matchs nuls.
Ah ouais, quand même,
c'est et la Lazio ils jouent pour la Coupe d'Europe.
Ouais.
Et que Naples ils affrontent que des équipes.
Là il y a combien de points d'écart entre les deux ? Il y a 3 points. Ah ouais,
et s'il y a égalité, ils font un mano-à-mano, un match.
Ah ouais,
c'est ça. Ouais, ouais, là-bas c'est comme ça. Si,
ah
il ouais, n'y a pas de différence de but.
Ça c'est pas mal ça.
Non,
pour ils ont changé.
C'est au final.
Il faut une sorte de finale.
C'est pas mal ça.
Il n'y a pas de différence de but.
C'est mieux comme ça.
C'est pour ça que Naples, quand il gagne 1-0, il ferme tout.
Et ce sera un terrain neutre.
Il gagne que 1-0, Naples.
Je sais pas du tout.
C'est pas mal ça.
C'est pas mal.
Naples, c'est des petits 1-0, mais ça tient la route. Et je le disais ça aussi. Ils étaient encore derrière l'Inter. J'ai dit que cette année, je voyais Naples aller au bout. Je le dis. Il y a quelques mois déjà, je disais que Naples.
Tu disais aussi que Marseille n'allait pas terminer deuxième de Ligue 1. Mais bon,
Marseille
ouais.
Bah on y est là. Dans deux. Et je disais même pas. Et je disais même pas qu'ils n'allaient pas terminer. Je posais la question. Je disais, est-ce que vous pensez que Marseille, en gros, c'est bon? Oui, c'est fait. Ils ont 6 points d'avance, 8 points d'avance. C'est fait. C'est ce qu'on me disait. Moi, j'ai juste posé la question. Mais j'ai pas dit qu'ils allaient finir deuxième ou quoi qu'est-ce. Hein. Il y a les podcasts, on pourra les réécouter. Mais voilà, en tout cas, je pense pour la Ligue des Champions. Hein. Donc, je vais vous demander les pronostics, bien évidemment. Alexandre, tu vas te concentrer un peu parce qu'en ce moment, les pronostics, c'est pas trop
ah,
ça.
C'est
hein.
Chaud, hein, je suis catastrophique.
Ah ouais. Du coup, comment tu vois le Paris Saint-Germain Arsenal?
Attention.
2-1 Arsenal, prolongation, tir au but, le PSG qui passe. Même si j'avais dit que ça allait être Arsenal de base qui allait passer, là je pense que si c'est tir au but, c'est le PSG qui passe.
Au tir au but, ok. Lucas ?
Victoire du PSG de justesse.
Un score ?
De 1.
J'aurais dit la même chose. Et toi?
2-1 pour le Paris Saint-Germain. Qualification. On fête ça. Sur
t'as l'air sûr de toi là. Les buteurs, c'est qui?
Les buteurs? Ah, c'est compliqué là.
Moi, je vois qualification du Paris Saint-Germain. Après, le score, franchement, je vois pas forcément Arsenal marquer là-bas. Mais je vois une qualification du Paris Saint-Germain et du côté de l'Inter Barcelone, franchement, c'est mitigé de chez mitigé.
Ah, mais
il
faudra me le donner.
C'est chaud. Il
faudra me le donner en tout cas.
C'est très compliqué parce que d'un côté, je ne sais pas pourquoi mon pressentiment me dit que Barcelone vont sortir un match. Je ne sais pas comment
est
passé.
Ça, c'est parce que c'est ton cœur qui parle, t'as peur.
Et mais... Allez, dis-moi l'Inter.
combien?
Ça va être un match débridé. Hein. Je vois 2-1 pour l'Inter.
Ok.
Ah, franchement, c'est chaud. Hein. C'est très, très, très chaud. Mais 3-1 pour Barcelone. C'est chaud. Mais...
3-1 pour Barcelone. Ah ouais, carrément. Et tu disais que c'était du 50-50.
Non, mais là, c'est parce que...
C'est chaud.
Non, mais là, je suis aveuglé.
Lucas ?
Barcelone. Barcelone, prolongation 4-1
aux prolongations pour le Barça.
4-1, ça veut dire qu'il y a eu genre un partout.
Ça me fait rappeler un Real Atlético.
Non,
Ligue des Champions.
peut-être un 1-0, 1-0
pour
Barça.
1-0 pour le Barça.
1-0 pour le Barça, ouais.
Salson.
Victoire de l'Inter de Milan. Un bon petit 3-1, je vois, pour l'Inter de Milan.
Ok, Salson, les paris sont donnés. Hein. Ça, j'ai vraiment hâte. Hein. Bah, ça va être demain, de toute façon. Hein. Ça va être demain. Moi, je pense pas mal de choses, mais on en parle.
Tu peux nous dire tes pronostics, s'il te plaît ?
Non. Moi, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer contre Arsenal, 3-1. Et 3-1, ouais, au minimum. 2 buts d'écart, en tout cas, le Paris Saint-Germain. Inter-Barça, 1-0 Inter.
1-0 ?
1-0.
Tu vois, un match aussi fermé ?
Ouais, okay. Ça peut être un match aussi fermé. Ça peut être, tu vois, comme là, ça a été un match super ouvert. Ça peut être un match.
Moi, je vois les deux équipes marquées.
Ouais, en fait, c'est ça.
Je pense que ça va aller dans tous
les
sens.
Moi, les deux équipes, elles vont encaisser pour moi.
Pour moi, les deux équipes vont marquer.
Ça va aller dans tous
les
sens.
De base, je serais parti sur un 2-1, mais je vais rester sur un 1-0. Je me dis que l'Inter.
J'aime bien le 3-1 de l'Inter.
Ils peuvent faire le petit 1-0. Je pense aussi. Voilà pour la Ligue des Champions. Hein. On va se faire juste une petite pause avant de revenir avec la Liga. La Liga, on va parler du doublé de Mbappé. Mbappé, auteur d'un doublé avec Arda Güler qui a marqué un joli but et une passe décisive face au Celta Vigo. Mais le Real se sont fait peur juste avant le Classico. Le Barça qui ont assuré l'essentiel et qui ont fait rentrer les trois fantastiques pour s'adjuger la victoire tout simplement face au Valladolid 2-1. Et on a eu Atlético de Madrid qui ont fait un match nul. Bon, Atlético de Madrid, les carottes sont cuites pour eux. Ils ont juste à sécuriser leur troisième place. Ça ne va pas être si difficile que ça, puisque Bilbao ont fait match nul aussi à la Sociedad. On y revient dans quelques secondes.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission, on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, il est 21h26 si vous venez de nous rejoindre. Nous avons parlé de la Champions et de la Ligue 1 et on va parler de la Liga cette fois-ci. Le Barça qui sont imposés 2-1 face au Real Valladolid et qui conserve 15 points d'avance avant d'affronter le Real lors du Classico le week-end prochain. Et le Real qui sont imposés 3-2. Tout simplement. Et il y a la course au Pichichi, hein. Mbappé qui revient à une longueur de Lewandowski qui a été blessé mais qui va revenir prochainement en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous en pensez de cette journée de Liga et notamment du Pichichi aussi Lucas, qu'est-ce que t'en penses toi de la Liga et de ce qui s'est passé ce week-end?
Bah, je pense que le Barça a été solide, avec ses buts. Avec cette victoire, c'est rassuré aussi pour le Classico à venir. Concernant pour le Real, pareil. Je pense que le Real, là, ça a remis un boost avec le doublé d'Mbappé et les problèmes extrasportifs qu'il y a et tout, je pense que ça a remis un boost et qu'ils veulent aller chercher le titre. Je pense qu'ils ont été frustrés d'avoir été éliminés par Arsenal et je pense que là ils veulent aller chercher le titre en partant du principe qu'ils ont perdu aussi la Coupe du Roi, donc ouais, ils visent le titre et je pense qu'ils peuvent l'attendre.
Tu penses?
Je pense qu'ils peuvent l'atteindre parce que ils ont l'envie, parce que le Real, c'est pas le genre de club où ils veulent finir sans trop
blanche, quoi. Ouais, oui. Bon, après, à 4 points du Barça, quand même, avec 3 matchs restants, c'est ça, hein, 3 matchs restants, ça va être compliqué quand même. Il faudra battre le Barça, il faudra que le Barça fasse un faux pas derrière.
Il reste 4 matchs,
ouais. Ça va être compliqué quand même en 4 matchs, quoi. Salson, toi, qu'est-ce que t'en as pensé et qu'est-ce que tu penses du Pichichi? Tu penses que Mbappé peut doubler Lewandowski? À 24-25 buts, ils sont respectivement. Et est-ce que tu penses que le Real peuvent le faire?
Bah, pour ce qui est du Pichichi, là, je pense que Mbappé peut le faire. Il va le faire, je pense, parce que c'est quand même une machine à marquer des buts, ce mec-là, même si tout le monde ne l'aime pas forcément. Et la saison qu'il dégage dans le jeu aussi n'est pas peut-être. C'est pas ouf, mais en tout cas, il marque ses buts. Hein, le mec, il est toujours là. Et je pense qu'il va continuer à marquer. Il aime ça. Et pour ce qui est du titre, moi, comme je dis. Mathématiquement, tant que c'est possible, il faut y croire. Si vous voyez, ça peut jouer dès dimanche. En fait, ça va jouer dimanche déjà. On va avoir un. Si le Real gagne, ça peut changer la donne, mettre une pression supplémentaire au FC Barcelone. Et on va voir. Après, moi, comme je l'ai dit, ça fait plusieurs mois, je le dis, je pense que le FC Barcelone va être champion. Mais là, au vu du contexte, leur élimination en Coupe du Roi, leur élimination en Ligue des Champions, là, ils n'ont plus rien à jouer, ils n'ont que la Liga. Et le FC Barcelone, ils sont encore engagés dans la Ligue des Champions. Et ça va dépendre de s'ils se qualifient pour leur finale ou qu'est-ce qui va se passer contre l'Inter. Parce que s'ils font des prolongations et tout ce qui en suit, ils ont des joueurs blessés. Ça va commencer à être compliqué pour le FC Barcelone aussi sur la fin de saison. Donc on va voir déjà ce qui va se passer pour le FC Barcelone demain. Et dimanche prochain, le match, je pense que ça va déterminer déjà la suite de ce championnat.
Merci Salson. Alexandre ? Tu penses que pour le Barça, les carottes sont cuites pour le Real. Et l'Atlético aussi, hein, qui ont fait 0-0. Bon, l'Atlético, c'est compliqué.
Dès qu'ils se sont fait sortir par le Real en Ligue des Champions et qu'ensuite ils ont perdu contre le Barça en Coupe du Roi, qu'ils se sont fait éliminer en Coupe du Roi, c'était terminé pour l'Atlético et leur saison. Puis même je regardais, là j'ai arrêté de regarder leur match parce que ça ne m'intéresse plus, mais je regardais leur match à ce moment-là. Et tu sentais que, je sais pas, il y avait un truc qui s'était brisé. Donc Simeone, au bout d'un moment, il va falloir qu'il songe à partir. Mais bon, bref. En tout cas, pour le Pichichi, pour répondre à ta question, Mbappé, il a de la chance que Lewandowski soit blessé. Mais je pense malgré tout qu'il n'arrivera pas à aller le prendre. Parce que Lewandowski revient, il va revenir ce week-end déjà. Et je sais pas, je sens pas Mbappé. Je sais pas, je sens que cette année, c'est pas... Même s'il marque des buts, hein, rien à dire et tout, mais je sais pas, je sens que, à mon avis, il va vouloir aller le chercher, mais ça c'est une certitude, hein, pour soigner sa saison, etc. Mais je pense qu'il parviendra pas à aller le chercher. Et la Liga, franchement, elle va se jouer ce week-end en vrai. Hein. Enfin, oui et non, parce que en fait, c'est même toi la semaine dernière, tu m'avais dit oui, s'il gagne ce week-end, c'est fait et tout, mais je sais pas, pour moi, t'as quand même Bilbao et t'as quand même. Et t'as quand même Villarreal qui vont arriver. Et honnêtement, Bilbao, ils jouent une place. Enfin, ils sont quasi sûrs d'être en Ligue des Champions, mais ils vont vouloir l'assurer. Et Villarreal, ils jouent. Pareil, ils jouent une place pour la Ligue Europa, je crois. Donc, franchement, ça va pas être évident. Ça va vraiment pas être évident. Donc, franchement, c'est difficile de pronostiquer, mais. En fait, le pire ennemi du Barça, ça va être l'enchaînement des matchs, en fait, tout simplement. C'est parce qu'il y a trop de matchs, les joueurs ils sont blessés, ils sont fatigués. Dès que la 60e elle passe, ça se voit qu'ils sont fatigués, ça se ressent à l'écran. Et quand tu vois le match contre Valladolid où ils ont fait tourner et que les remplaçants, ils n'ont pas du tout été rassurants, ils étaient obligés de faire entrer les titulaires pour gagner 2-1 contre le dernier du championnat qui est relégué. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et par contre, le Real, pareil, je ne sais pas si vous avez regardé un peu le match et tout. Mais ils se sont fait peur. Hein. C'est pas comme
ça. Depuis le début de saison, c'est comme ça.
Tu vois, ouais, c'est
le Real, depuis le début de saison, c'est ça. Là, des matchs qui doivent gagner 5-0, bah, ils les terminent à 3-2, à 3-3.
Parce qu'ils se font peur, en fait. Ils se font peur bêtement. Déjà, la première situation, elle est pour le Celta, parce que Courtois, il fait un bel arrêt. Mais au-delà de ça, ils se reprennent et tout. T'as l'impression que cette fois-ci, ils vont gérer et tout. Puis après, ils se prennent un but et après, ils commencent à paniquer et tout. Enfin, c'est... Je sais pas, je trouve ça un peu compliqué.
C'est ce que je disais l'autre jour à un de mes amis, tu vois, on parlait. Et j'ai que cette année, le Real Madrid, j'ai pas l'impression qu'ils ont une sérénité dans tous leurs matchs. Ouais. Tu vois, ça gâche pas de sérénité. Il y a des matchs comme, je sais pas, t'es en Ligue des Champions avant qu'ils se fassent éliminer. On connaît le Real Madrid. On se dit, normalement, au retour, ils peuvent le faire. Parce que cette année, ils avaient déjà des matchs références aussi de précédemment dans la saison qui font que tu pouvais penser qu'au retour, ils auraient pu le faire. Mais là, ça dégage rien.
Ils n'ont pas été aidés tout au long de la saison par les blessures.
Hein. Bah, c'est une équipe sans énergie.
Exactement. C'est comme FC Barcelone. Là, je dis quoi? Je dis l'Inter, ils vont gagner. Mais attention, je ne pense pas qu'ils vont se qualifier aussi facilement. Mais tu sais que le FC Barcelone, demain, ils peuvent te surprendre. Ça ne va pas m'étonner que demain, ils nous surprennent. Parce qu'ils ont déjà eu des matchs références dans la saison et on les connaît. Et le Real n'a pas eu ce genre de match dans lequel on peut penser que pas avoir entendu en situation. Après, ça reste le Real encore une fois. Donc, voilà.
Et juste un mot sur le match d'hier, parce que j'y étais, j'ai eu la chance d'y être, entre la Real Sociedad et Bilbao. Franchement,
je te plains. Le 0-0 que t'as eu, j'imagine qu'il devait pas être.
C'était relou.
Ça, Bilbao avait la tête à l'autre fort.
Heureusement qu'il y avait le divertissement avec les gens à côté, parce que là-bas, ils sont fous. Ils sont fous, vraiment. Ils vivent vraiment le truc à fond. Mais franchement... très décevant. La Real Sociedad, de toute façon, on le savait, hein, cette année, c'est moins bien que les années précédentes. En plus, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Mais voilà, décevant. Et Bilbao aussi, décevant. Franchement, pas grand-chose à tirer.
Jason ?
Moi, je dirais que ça relance. Si, à partir du Clasico, ça relancerait le championnat espagnol. Mais la chose qui va faire la différence, c'est que tout dépend du match de Ligue des Champions du FC Barcelone. Si ils se font essorer contre l'Inter et que c'est un match qui peut durer en prolongue ou qui a été très poussif, ça peut arranger le Real parce que vu l'état du Real, comme on voit encore ce week-end contre le Celta, c'est que Barcelone à 100%, ils ne s'en sortent pas le Real. Avec la défense aussi ouverte face à Yamal, Rafinha.
T'as vu les absents qu'il y a en plus.
Ben c'est ça. C'est que avec tous les absences qu'ils ont, franchement, ça aurait été compliqué. Donc là, ils peuvent avoir la chance que l'Inter puisse fatiguer le Barça avant ce Clasico. Et là, ça peut équilibrer la rencontre. Et ce qui peut faire un match très, 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 très intéressant. Et je pense que ça va scorer des deux côtés. Mais si le Real il saisit pas cette chance-là, la saison, ils peuvent plier bagage. Hein. Ouais. C'est terminé. Et surtout le calendrier du Real, même s'il s'impose face au Barça, ça va être compliqué. Comme on a dit, Bilbao, derrière, c'est pas facile. Villarreal, parce que c'est des équipes qui visent encore l'Europe.
Ça, c'est le Barça. Ça, c'est pour le Barça.
C'est le Barça, mais ouais. Parce que le Real aussi, ils affrontent Bilbao. Ah non, ah c'est le Barça.
Oui, c'est le Barça. Ah, ils ont Séville, la Sociedad.
Ah le Real, ils ont Séville, la Sociedad. Ouais. Donc ouais, ça va être.
Même la Sociedad, ils ont posé des problèmes au Real.
Malgré qu'ils jouent rien du tout, hein, c'est une équipe très compliquée, très compliquée à jouer. Et le FC Séville n'est pas facile à jouer à domicile aussi. Donc tout va se jouer sur ce Clasico. Le Barça, le Real a toutes les cartes en main pour relancer ce championnat. Hein. Et concernant le Pichichi, je pense qu'Mbappé va passer devant. Vu qu'on ne connaît pas vraiment l'état de blessure de Lewandowski, on ne sait pas s'il est vraiment apte à 100% à revenir à fond jusqu'à la fin de saison. Donc déjà, on attend de voir cette semaine pour voir quand il va rentrer et après voir lors du Clasico. Mais je pense qu'Mbappé risque de lui passer devant.
Merci Jason. On va se faire une petite virgule hein, avant de revenir avec... la Première Ligue, tout simplement, avant de revenir avec la Première Ligue, hein, Liverpool champion qui se sont inclinés à Stamford Bridge, 3-1 face aux Blues. Cole Palmer qui a retrouvé le chemin défilé après 18 matchs sans marquer, hein, qu'il l'eût cru. On y revient tout de suite, on arrive. Manchester United qui s'incline face à Brentford, 4 buts à 3, avec une équipe remaniée, hein, on pense notamment à la Ligue Europa. Liverpool Champions s'incline à Stamford Bridge, 3 buts à 1 face aux Blues, et les Blues restent dans la course à la Ligue des Champions. Arsenal qui n'y arrive toujours pas, et ça fait 3 rencontres, hein, ça fait 2 matchs nuls, 1 défaite, et ils voient Manchester City revenir à 3 points. Attention à Manchester City. Incroyable. Qui ont réalisé une saison catastrophique, mais qui peuvent passer devant Arsenal, hein, à, qui sont juste à 3 petits points. C'est quand même fou, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, Manchester City qui se sont imposés 1 but à 0 face au Wolves, avec un Kevin De Bruyne qui retrouve des couleurs, hein, un bon Kevin De Bruyne aussi. Quelle a été vos impressions sur cette journée de Première Ligue, Lucas?
Je pense qu'il y a eu un côté pour Arsenal, c'était comme on le dit, c'est que la Ligue des Champions, ils veulent se concentrer sur la Ligue des Champions, et du coup c'est plus compliqué. Peut-être le côté aussi qu'ils savent que la Première Ligue Liverpool est déjà champion.
Oui.
Mais après, je pense que avec Manchester City, il y a une petite bataille qui va se faire. Et je pense que City revient et a les armes pour aller chercher cette deuxième place.
Okay. Merci, Lucas. Salson.
Cette journée de Première Ligue... Elle nous donne du beau suspense pour la suite. De là, sur City, je suis choqué. Franchement, choqué. Parce qu'il y a quoi ? Il y a peut-être un ou deux mois, j'étais ici, j'étais en train de dire je pense que c'est cuit pour eux. Et là, ils sont en train de te faire une remontada, limite passer devant Arsenal. Ouais,
bah c'est les autres équipes aussi, hein, qui font.
Ouais, qui ont faussé. Enfin, ouais, pas faussé le championnat, mais.
Non, mais qui sont mauvais.
On va pas parler comme les Marseillais, mais plutôt que les équipes n'assurent pas leur résultat.
Ouais.
Et
on pense à Newcastle aussi. Hein.
Ouais, ouais, mais t'as même Nottingham là, qui lâche. Ouais. T'as Chelsea qui repasse du coup pour la Ligue des Champions. Eux, ils font leur. Qui finalement aussi font une petite remontada aussi, parce qu'ils ont au classement, je trouve. Et en plus, là, ils sont qualifiés pratiquement en finale de la conférence, là, de la Conference League. Ouais, non, il y a eu des. Franchement, après, c'est. Bon, après, t'as United qui s'enfonce aussi.
Je pense que.
S'ils ne remportent pas la Ligue Europa, c'est une saison. Je crois que c'est la pire saison depuis.
Ça fait au moins 30 ans, 40 ans.
Ah, ce sera la pire saison de Manchester United. Ouais. Là, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu une United à cette place. Ce qui est drôle aussi, c'est que tu as Tottenham et United qui se suivent entre la 17e et la 16e place, et ils sont en train. Peut-être les deux vont s'affronter en finale de la Ligue Europa. Donc il y a un des deux qui sera. Celui qui perd cette finale sera le grand perdant.
Ouais, mais on aura le droit, je pense, à un Tottenham qui sont imposés 3 buts à 1 face au Bodø/Glimt. Et à United 3-0 face à Bilbao. On va y revenir juste après, de toute façon.
Juste après. Donc voilà. Non, franchement, la fin de saison va être encore passionnante, parce qu'il y a encore, pas mal d'enjeux encore pour beaucoup d'équipes. Mais en tout cas, chapeau à City, hein, pour leur remontada. Il a réussi à remettre cette équipe dans les bons rails un peu.
Merci, Salson. Alexandre, je voulais aussi attirer l'attention sur Omar Marmouche. Je sais pas ce que t'en penses. Omar Marmouche qui s'est un peu perdu, hein. Moi, je regarde les matchs de Manchester City, je vois qu'il a du mal, hein. Soit c'est pas le bon système de jeu, soit en plus là, il y a Haaland qui revient, il a pas su vraiment bénéficier de son absence pour s'imposer. C'est dur pour Omar Marmouche. Ils n'arrivent pas à le trouver dans les espaces, ils n'arrivent pas à combiner. C'est très compliqué. Il fait des matchs très compliqués avec Manchester City.
Alors,
ces derniers temps.
Le problème avec Marmouche, c'est, je pense, c'est une histoire de timing, en fait. C'est qu'il arrive au mauvais moment. Tout simplement, il est arrivé au mauvais moment, et pourtant quand il est arrivé, vu que c'était un City qui était vraiment catastrophique, il sortait un peu du lot, parce qu'il était dans une bonne forme.
Moi je pense qu'il a fait un mauvais choix là. Avec Francfort, il sort en quart de finale. Peut-être avec Omar Marmouche, il sort pas en quart de finale. Il va peut-être chercher la Ligue Europa. Hein.
C'est difficile de juger, parce que tu marches sur l'eau à Francfort.
Après, c'est pas le même championnat.
C'est pas le même championnat, c'est vrai, mais pourtant au début en première ligue et même en première ligue, au début quand il arrivait, franchement il faisait des bons matchs. Je crois qu'il avait marqué un triplé, je crois, Ou non, c'était le derby. Voilà, le derby contre United, je crois, où il avait fait un bon match.
Ouais, c'est possible. Il a fait des bons matchs.
Mais là, il s'est perdu. Mais c'est parce qu'en fait, l'équipe.
Il avait mis un triplé contre Newcastle.
Ah, ouais. Voilà, contre Newcastle. En fait, il est arrivé dans une mauvaise période où l'équipe, elle se remanie, où il y aura l'année prochaine des changements, etc. Et le temps qu'il trouve sa place, ça va être difficile. Après, là où je te rejoins, en fait, c'est que. Bah, le problème, c'est peut-être que Pep, il va le brider finalement. Si ça se trouve, Pep, il va le brider. Et que si ça se trouve, il va le mettre en ailier gauche où il n'aura plus le droit de déborder, plus le droit de dribbler, il va se transformer en Grealish. Ou bien peut-être qu'il attend de lui à ce qu'il se transforme en De Bruyne, mais c'est pas le même type de joueur. Donc au final, en fait, Marmoush, parce que c'est un 10, Marmoush, hein, c'est un 10, sauf qu'à City, malheureusement. Bah,
le fond jeu
t'as pas de 10.
Bah après, ses prestations, elles ont diminué depuis qu'Haaland il est blessé. Hein. Parce que Haaland était devant et que les joueurs en soutien de Haaland, il était un peu plus en électron libre et de là il pouvait s'exprimer. Mais maintenant que depuis qu'il doit jouer en pointe, jouer en pointe et jouer 10, c'est pas le même métier.
Ouais, parce que lui, il serait meilleur à deux attaquants.
Exactement.
Parce que là, en pointe, il se perd un petit peu. Après, franchement, le recrutement de Manchester City va être. Les départs et les recrues, ça va être vraiment intéressant à voir et déterminant. Ouais.
Merci. Jason ?
Moi, je dirais que en passant déjà par Chelsea qui fait la bonne affaire en battant Liverpool. Bon, Liverpool qui sort de son titre de champion.
Ouais.
Donc, la tête à la fête. Donc, on peut dire qu'ils ont bénéficié de ça. Ils ont fait la bonne opération parce qu'il faut tout de même les battre, Liverpool, malgré tout.
Vers la fin, ils se sont réveillés. On s'est dit peut-être qu'ils peuvent accrocher le nul. Hein.
Ouais, après,
quand Van Dijk marque le 2-1, ils ont quelques situations. Hein.
Ils ont des situations, mais après, bon, je ne m'attendais pas à grand-chose sur ce match de Liverpool. Ils ont déjà fait le boulot, la saison a été longue, ils ont tiré. Ça y est, ils ont eu le sacre qu'ils n'ont pas pu fêter pendant l'année Covid.
C'est ça.
Donc, le taf a été fait. Après, au niveau de United a fait tourner. Hein. Il y a même des noms que je ne connais même pas. Quand j'ai regardé la compo.
Ah non, il a fait tourner totalement.
Il a fait totalement tourner. Et malgré ça, en fin de match, ils ont relancé la partie. Après, gagner à Brentford, ce n'est pas donné. Hein.
Ouais.
Surtout avec la paire Wissam Bemo.
Ouais, on a vu qu'ils ont battu Nottingham Forest aussi dernièrement.
C'est une équipe pas facile à manier. Et Arsenal, qui s'est mis une épine dans le pied parce que Arsenal a mis quasiment son équipe titulaire qui vont aligner mercredi et ils l'ont mis ce week-end et en plus a perdu.
Ouais.
Donc
ouais,
ils n'ont pas été du tout gagnants.
Il a dit ça, il a dit qu'il voulait justement laisser de la continuité aux joueurs alors que les trois autres trois équipes, ils ont tous fait tourner. Sauf
ça ne lui a pas réussi non plus. et surtout qu'ils se sont bien fait bouger par Bournemouth.
Ouais. Il gagnait 1-0 en plus, on s'est dit ça va être un match tranquille.
2-3-0,
il va faire sortir les Saka.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Je pense qu'il devait être dans cette optique-là, lui.
Ah, exactement. Ouais. Mais ça,
il les a fait sortir à la
87e
minute, mais les carottes étaient déjà cuites. Hein.
Donc au
les
final, il y a des joueurs qui jouaient plus longtemps. Ça fait que pour mercredi, il y en a certains qui risquent d'avoir les jambes lourdes.
Donc le voyage et tout.
Exactement.
Surtout que le PSG sera plus frais.
Parce qu'il a fait tourner quasiment totalement au niveau de l'équipe. Et City, moi j'avais déjà annoncé, j'avais déjà dit que City, il ne faut pas les enterrer, que ce soit pour la Cup ou pour le championnat. Moi j'ai toujours dit City, il ne faut pas les enterrer. Et ils montrent que je n'avais pas forcément tort dans ce que j'avais dit. Et la saison pour eux, ils ont tout à gagner, à aller chercher une deuxième place parce que si Arsenal se fait sortir de la Ligue des Champions, les têtes seront un peu à la baisse. Donc, ils pourront peut-être prendre la deuxième place du championnat et aller chercher la Cup en guise de sauvage de fin de saison.
Ouais, ils pourront aller chercher la Cup. Et Manchester United aussi, hein, qui ont perdu 4-3, mais qui peuvent se relancer en jouant une finale, ça n'est pas encore fait, hein, mais ils ont gagné 3-0 à Bilbao. On y revient juste après la virgule. Manchester United qui corrige Athletic Bilbao 3-0 à l'extérieur et se donne toutes les chances d'aller disputer une finale en Ligue Europa 100% anglaise parce que Tottenham, 17e quand même de PL hein, et 16e de PL et quand même se sont imposés à domicile 3-1 face au club norvégien Bodø Glimt et qui vont aller en Norvège tout simplement. Hein. Faudra faire attention quand même en Norvège, mais 3-1, on pense que le jeu a été fait quand même. Voilà, je pense que ne pas perdre avec plus de 2 buts d'écart sera dans leur capacité, en sachant que c'est la seule chose à jouer. Et on aura sûrement une finale...
anglaise.
100% anglaise entre Manchester United et Tottenham. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces matchs-là? Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Tottenham-Bodø/Glimt? Tu as regardé un peu le match? Tu as suivi? Ou tu étais plus sur Athletic Bilbao-Manchester United?
Non, moi, je pense... Le côté Tottenham, ça peut les ça peut être bon pour finir en beauté la saison.
Oui, la saison.
Ouais. Et qui sont
Un trophée, hein. Tottenham, ça, tout simplement. Ouais, ça fait combien d'années ils ont pas gagné de trophée? Est-ce que ça sera l'année où Harry Kane a eu un premier trophée aussi, hein?
On ne sait pas. Après, je pense que ça peut aussi jouer. Pour moi, le 100%, la finale 100% anglaise est faite. Bon, non, elle n'est pas faite, mais.
Si, elle peut être faite pour toi, hein, si c'est ton avis. Il y a 3-0 pour United d'un côté.
Probablement, je pense qu'elle est probablement.
Faite, ouais.
C'est ça, et on aura y aura le côté quand même, il faut se méfier un peu de Bilbao.
Bon, après ce qu'ils ont montré, non, t'inquiète pas.
Ouais.
Bon, on ne sait pas, on sait pas.
Ok, merci Lucas. Salson.
là, franchement, moi, je suis arrivé à la deuxième mi-temps sur le match United. Je vois 3-0, j'étais choqué. Donc, belle opération pour eux dans ces phases allées. Tottenham aussi qui mène 3-1. Donc, moi, je pense qu'on va, comme tu l'as dit, on va assister à une finale 100% anglaise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces deux équipes, en plus, elles se suivent au classement Premier League, c'est-à-dire pratiquement dans la zone rouge, pas très loin en tout cas, entre la 16e et la 17e place. Et voilà, pour moi, le perdant de cette potentielle finale, il aura tout à perdre. Il aura tout à perdre, ce sera une saison vraiment catastrophique, limite, j'avais dit, parce que tu vois, tu fais tout ce parcours-là jusqu'en finale pour la perdre. Et en plus, en championnat, tu es 17e, voire 16e ou 17e. C'est un mauvais résultat, donc on va assister, je pense, à une belle finale, ça va être une belle bataille. C'est pas encore fait, mais comme j'ai dit, c'est potentiellement, et je pense qu'ils vont se qualifier, les deux équipes anglaises vont se qualifier, et puis voilà.
Merci Salson. Alexandre?
Ouais, franchement, déçu de Bilbao, encore une fois, parce que, moi je regarde beaucoup de foot espagnol, et en fait Bilbao, je les ai vus beaucoup jouer cette année, et à chaque fois, ils m'ont, sans être flamboyant non plus, hein, parce que c'est Valverde l'entraîneur, enfin c'est pas non plus, voilà. Mais je sais pas, il y avait toujours eu beaucoup de maîtrise technique, jeu de transition, etc. Mais je pense que la blessure de Nico Williams, elle a pas mal impacté. Et en plus, après, il faut pas oublier qu'ils ont pris un carton rouge aussi, pendant le match.
Mérité ou pas, en tout cas, ça a fait une polémique.
Bon, mais de toute façon, en Espagne, ça fait toujours des polémiques, donc voilà. Mais c'est pour ça que j'étais ultra surpris, d'autant plus de ce qu'avait montré United au cours de cette saison. J'étais surpris du résultat. En plus, c'était là-bas, ils ont gagné 3-0 là-bas. Et aussi surpris, parce que je te faisais confiance, Bodø/Glimt et tout, je me suis dit, peut-être qu'ils vont... Vu qu'ils ont sorti la Lazio, peut-être qu'ils vont pouvoir
Non, moi je disais juste que contre la Lazio, parce que je vois la Lazio aussi, mais après contre Tottenham, c'est assez.
Après, à l'extérieur, c'est compliqué.
Ouais,
hein,
à l'extérieur, oui, c'est compliqué. Oui. Bodø/Glimt, c'est à domicile qu'ils font leur résultat.
Je les enterre pas tant que ça. Hein.
Oui, oui. Parce que... Ils ont gagné 2-0 contre la Lazio à domicile.
Voilà, tu vois, il suffit qu'il y ait 1-0 et un but en fin de match, 2-0.
Pour moi, ce match-là, il n'est pas joué.
Il n'est pas joué à 100%.
Parce que c'est vraiment ça. Il y avait 3-0 et ce qui a fait tâche, c'est le but des Norvégiens à la fin où ils se disent, on peut y croire.
Regarde, contre la Lazio, ils font le boulot à la maison, mais à la Lazio, avec le stade, la pression, ils n'ont pas l'habitude, les Norvégiens.
C'est ça, exactement.
Donc la tendance, ça s'est inversée. Ils sont allés en prolongation et même, je crois, au tir au but.
Mais là, ça va être chez eux, avec le froid, Norvège. Hein.
Exactement, ça peut jouer.
Chez eux,
ils sont capables d'en mettre deux.
C'est une petite ville. Hein, on rappelle, il y a 40 000 spectateurs, plus que au stade, il y en avait plus que dans leur propre ville. Oui, oui. Imaginez le truc.
Ils peuvent se qualifier en Ligue des Champions si jamais ils parviennent à gagner la Ligue Europa. Donc pour eux, ça peut être incroyable et tout. Mais bon, mine de rien, je pense. Après, encore une fois, moi je suis nul en pronostic, mais je pense que Tottenham, ils vont peut-être réussir à passer s'ils sont sérieux. Et surtout que, comme a dit Salson, en fait, c'est qu'ils ont que ça à jouer. En fait. Donc au bout d'un moment, ça y est, ils ont quoi? Ils ont 15 fois au moins le budget de Bodø/Glimt. Donc ils ont intérêt à gagner là-bas. Mais la blessure de Son, en tout cas, elle aura vraiment impacté beaucoup leur saison. Je ne sais pas si c'est vraiment que ça.
Son,
que...
il a été mauvais.
Malgré tout,
c'est vrai qu'il était mauvais, mais au moins, tu peux t'appuyer quand même sur un gars qui peut te marquer des buts de temps
en temps. Non, il n'arrivait même plus. Il n'arrivait même plus à marquer. J'ai envie de te dire, même Richarlison, a été un plus gros apport que Son cette saison.
Et moi, c'est Matistel, il me fait de la peine. Oh là là, il me fait de la peine.
C'est compliqué. Après, ce n'est pas un football forcément pour lui, je pense.
Après, je pense qu'il va revenir côté Bayern, même si après, il doit.
Je pense qu'ils vont se séparer lui encore.
Bon, même s'il sépare de lui. Je pense pas qu'il ira en Angleterre.
Après, le problème, je pense qu'il est mal utilisé. C'est qu'à la base, c'est un numéro 9, on le fait jouer ailier.
Oui, bah oui. Donc, oui, il joue ailier gauche, il est complètement perdu et tout.
Quand il est parti à Tottenham, j'avais pas compris. J'aurais préféré rester en Allemagne.
Mais après, le problème, c'est qu'il jouait pas.
Mais c'est vrai que là, avec les blessures qu'il y a eu, etc.
Il se fait prêter dans un autre club.
Oui, oui, dans un autre club en Allemagne.
Le Verkusen ou je sais pas, Leipzig, tu vois, les clubs de ce type.
Leipzig, ça aurait été un club pour lui.
Oui, après, oui.
Leipzig, tu vois.
Mais ouais, non, mais ça fera une finale 100% anglais, je pense, au final. Ça va être intéressant.
Ça va être intéressant. Conference League, Chelsea, hein, qui ont gagné 4 buts à 1. Et de l'autre côté, Fiorentina, Betis. Ouais. Betis qui sont imposés 2 buts à 1, mais le retour sera à la Fiorentina. Attention, hein, la Fiorentina de Moise Kean peuvent renverser la situation et aller pour la deuxième fois consécutive en finale, tout simplement.
La Fiorentina, ils sont devenus habitués des petites compétitions comme ça. Hein. On a l'habitude de les voir souvent dans le dernier carré. Ouais. Et franchement, le projet qu'ils ont est vraiment pas mal.
C'est pas mal. C'est là que tu vois la différence. Moi, ça, j'aurais aimé que ce soit un club français qui réfléchisse comme ça, tu vois. Qui réfléchissent comme ça, mais les clubs français, ils ont chaud d'aller en Conference League. Je sais pas, ils aiment pas.
Ils préfèrent privilégier la Ligue 1. Ouais. Pour au final se qualifier dans ces compétitions se dire qu'on reprivilégie la Ligue 1.
Ouais, mais tu veux envoyer qui là en conférence?
Bah regarde,
Brest en Conference League, moi je pense.
Bah là c'est Lens, je crois.
Bah là Brest en
Conference League.
Mais le problème c'est Lyon.
Bah non, en fait là c'est jusqu'à la 6ème place en plus. Là Lyon ils ont rien, ils sont 7ème Lyon.
À part si Paris gagne la Coupe de France.
Ou la Ligue des Champions.
Si la Coupe de France automatiquement.
Et s'ils gagnent les deux,
Mais s'ils gagnent les deux, c'est que pour la...
Ça fait une Ligue Europa en plus, une Champions en plus.
Ah aussi.
Ah, c'est cool ça.
Bah, regarde.
Une Ligue Europa en plus, une Champions en plus.
En Angleterre. Ouais. Ils ont gratté une place, je crois, en plus.
Ouais, ils ont 5 places.
Mais pour l'année prochaine, je crois qu'ils... Attends, il y avait...
Après la Ligue des Champions, là, il y a 5 qualifiés.
Ah non, parce que comme
il y a la Ligue Europa... Ouais, mais il y a la Cup, ils ont la Cup, non? La FA Cup, quand ils la gagnent, ils ont...
La Cup, ça débloque Europa League.
Oui, l'Europa League, comme la Coupe de France.
C'est bien ça. Vu qu'il peut y avoir une finale d'Europa à 100% anglaise, s'il y en a un des deux qui se qualifie, bah là, ça fera 6 clubs en Ligue des Champions.
Voilà, exactement. Par le biais de la Ligue Europa.
Ouais, c'est ça.
Et Chelsea, les carottes sont cuites pour Joe Gardner.
Oui,
Garden, ça y est.
Ouais, ils ont fait un beau parcours.
Ils
déjà,
ont fait un beau parcours, mais pour gagner à Chelsea, ça y est, il peut envoyer l'équipe B. Hein.
Ouais, mais après, Chelsea, après, ils ont la Fiorentina ou Betis. Moi, ça. Franchement, retrouver des équipes comme ça en demi-finale de conférence, c'est pour ça que pour moi, ça a un peu. Maintenant, ça. Tu trouves le champion. En tout cas, la conférence, avant, tu pouvais la regarder à partir des 8e quart de finale. Maintenant, tu peux plus. Avec les clubs qui descendaient de Champions en Ligue Europa ou Ligue Europa, les 3e qui descendaient en conférence. Mais maintenant,
après,
sans
je
ça,
trouve que les
moi,
clubs,
je pense que ça
ne la, la compétition leur va bien. C'est des clubs dans leur championnat qui jouent la 6e, 7e place.
Ouais, c'est
et
ça.
Ils ont leur compétition.
Mais en fait, elle est bien pour les petits pays. En fait,
exactement.
C'est bien pour eux, ça leur fait
à la base, elle devrait être bien pour les Français aussi.
C'est une bonne compétition.
Je ne serais pas dégueu.
Et même, ça donne un boost dans les championnats. Même malgré la 6e, 7e place, ils vont toujours
récupérer. Ça donne un enjeu.
Ça donne un enjeu.
En fait, ça donne un enjeu, mais. Dans le fond, en vrai, on sait que ce sera toujours.
Non, moi, je parle juste de la formule. Hein. Les 6e, 7e, ils doivent rester, mais de la formule. Dans le sens où les 3e de Champions, par exemple, s'il y avait encore les phases de poule, les 3e de Champions soient relégués en Ligue Europa ou quoi. Moi, mais pour qu'il y ait toujours cette. Voilà, moi, j'aurais aimé avoir des plus grosses équipes que Chelsea qui mettent l'équipe B. Ils vont te mettre des joueurs qu'on connaît à peine, comme Georges.
Ça suffit pour gagner.
Et ça suffit pour gagner.
Et encore Chelsea, ils y sont parce que la saison dernière, ils ont fini à la place qui. Voilà, c'est ça. Là, les prochains, ils vont finir. Champion, tu vas mettre qui à leur place, tu vois. Ça. Non, mais c'est vrai, c'est dans ce sens-là. Non, mais
c'est pour ça que j'aurais aimé, moi, qu'il y ait une relégation encore.
Ça a porté fruit à Séville pendant des années, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Pour la Ligue Europa, quand ils les prennent, c'est parce qu'ils
finissaient 3e de Champions.
Ils finissaient 3e de Champions. Ils finissaient 3e de Champions.
Après, je pense qu'ils ont fait cette formule pour laisser plus de chance aux toutes les équipes qui commencent dans cette compétition. Parce que justement, quand ils arrivent à un certain niveau, les équipes de Champions, ils les sortaient automatiquement.
Il y avait quelques surprises, mais oui.
Sinon, c'est pour ça qu'ils ont fait ça.
Quoique, avec les nouvelles formules, j'ai l'impression c'est plus les petites équipes qui ont été mises en avant parce qu'ils ont rajouté plus d'équipes en Ligue des Champions.
Après, c'est les gros qui ont déjoué.
T'as plus de petites équipes là en Ligue des Champions, ça crée le décalage. Et ça fait monter même en conférence.
Après, c'est parce que les gros ont déjoué. C'est comme en Ligue des Champions, c'est les gros qui ont déjoué. Parce que les gros, ils affrontent les petits. Mais ça, quand c'est en phase de poule de 4, les gros, ils font le taf parce qu'au match retour, ils savent qu'il y a le match retour.
Ouais.
Mais là, comme il n'y a pas de match retour, mais les équipes...
Pour moi, cette formule-là, je la valide. Hein.
Ah, moi, je la valide complètement. Moi, je la valide complètement.
Au début, j'étais un peu... Et quand j'ai regardé en détail, j'ai dit, mais en fait, elle est pas mal.
Mais après, ce que je trouve bizarre, c'est que, par exemple, là, le Paris Saint-Germain, ils affrontent que des équipes anglaises.
Après, c'est le hasard qui fait les choses.
La nouvelle, parce que là, ils ont fait des réformes, l'UEFA, pour l'année prochaine. Et moi, je suis contre un peu les réformes. Ils ont dit que deux équipes d'un même pays pourront pas s'affronter.
Moi, je préfère ça.
C'est mieux.
Moi, je préfère. Parce que là, quand
avoir
Brest,
un PSG Brest en quart de finale.
Moi, j'aurais aimé voir Brest contre une autre équipe.
J'aurais préféré avoir Brest Benfica.
Même les gars de Brest, ils étaient dégoûtés. Ils ont dit on les affronte tous les week-ends.
Non, mais les affiches des huitièmes, c'était un Bayern Leverkusen. Il y avait Real Atletico. Moi, je trouve ça super ça.
Non.
Moi, je préfère la diversité.
C'est des matchs qu'on a vu en plus. Bayern Leverkusen, Bayern, ils venaient de s'affronter.
Ben oui.
Atletico, Real, ils sont affronté combien de fois? Trois fois en une semaine.
Laisse-moi, quand ils l'ont interrogé, il était dégoûté quand il est tombé sur le PSG. Ouais, ouais. Il était dégoûté.
On les connaît, on les a affrontés, je sais pas combien de fois. Parce que c'est ça aussi, c'est voyager.
Non, mais les Français,
en Coupe de France, le PSG, ils ont joué Brest aussi. En Coupe de France, je crois.
Non,
c'est pas en Coupe de France. Oui, en Coupe de France.
En Coupe de France.
Ils sont affrontés trois fois cette année.
Trois fois dans la même semaine.
Une semaine. La Ligue 1, la Coupe de France.
Ah, ils en avaient marre.
Et plus la Champions
League. Ça fait ça. Les équipes françaises, elles n'ont pas leur mot à dire dedans. Parce que
ils ont pris du rap,
en dehors de ça, d'accord. Mais s'il y a deux équipes françaises qui s'affrontent, au moins, t'es sûr d'avoir une équipe française.
Ouais, mais non. Parce que les mecs.
Les Brest, ils seraient fait sortir contre n'importe quelle autre équipe.
Mais le truc, c'est sortir par Benfica que le PSG.
Moi, je pense qu'ils auront pu sortir le Benfica. Mais bon. On va parler du Bayern très rapidement, hein. Le Bayern champion, enfin le premier trophée de Harry Kane, hein. Harry Kane qui attendait ce trophée, qui a mis une photo d'un trophée, qui est un peu le chat noir, hein, parce qu'on l'a vu descendre sur la pelouse pour fêter le titre, et à ce moment-là, l'égalisation, hein, pour montrer jusqu'au bout que voilà, on lui donne pas, voilà. Du coup, il l'a fêté dans un petit bar en Allemagne, il a fêté le trophée comme ça, et il était vraiment content, il a publié un trophée dans sa story directement. Où Thomas Müller disait mon dernier trophée de ma carrière sera ton premier trophée à Harry Kane. C'est assez marrant. Mais voilà, on va se faire juste un petit quiz d'une petite minute pour clôturer cette émission. On y revient tout de suite. On va commencer avec la première question. Première question. Ça le sonne le téléphone, s'il vous plaît. Merci. Première question. Quelle est la meilleure défense des 5 grands championnats? On va prendre la meilleure défense des 5 grands championnats.
L'Inter de Milan?
Non.
C'est l'Atlético?
Non plus.
Le PSG?
Non plus.
C'est Barcelone?
Non plus.
J'ai pas
maintenant, ceux qui ont des idées.
Naples
pour Jason, ça fait un point pour Jason. Bien joué, Jason. Deuxième question. Quelle est la meilleure attaque cette fois-ci des 5 grands championnats?
Barcelone.
Tu dis Barça?
Oui.
Tu Barça. Dis quoi? Barça.
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 Ouais, pareil, Barça.
Ok, vous avez tous faux.
Ah ouais,
ouais.
Ouais, c'est Paris.
Vous avez tous faux. Non, c'est pas Paris non plus.
Bayern,
deuxième point pour Jason, avec 93 points, avec 93 buts pour le Bayern.
Et 91
pour le Barça.
Non, juste
en championnat.
En championnat.
Oui, en championnat. En championnat, on va avoir une autre. Dans quel des 5 grands championnats où il n'y a aucune équipe officiellement reléguée?
Italie.
Je répète, dans quel des 5 grands championnats il n'y a aucune équipe officiellement reléguée?
Liga.
Moi je dirais l'Italie.
Tu dis la Liga?
Moi je dis l'Allemagne, la Bundesliga.
Bundesliga.
Serie A.
Liga.
Non, c'est Valladolid, ils sont relégués.
Et c'est la Bundesliga où il n'y a aucun club relégué officiellement pour l'instant. Dernière petite question. On va la faire. Que signifie GOAT?
Greatest of all time.
Bien joué. Alexandre, ça fait 2-2. 2-2, Alexandre, Jason. On va pas
faire une dernière là?
Une petite dernière pour vous départager? Une petite dernière. Quels sont les trois premiers de la Ligue 2 à monter en Ligue 1 lors de la saison
2013-2014? Oh, wow, t'es
chaud.
2013-2014.
2013-2014. Je vais dire un truc au hasard.
Si vous avez un club, déjà il y a Metz.
Lorient.
Evian.
Non, pas Evian.
2013, t'as dit?
2013.
Angers, bien sûr, il y a Angers qui traîne dans les parages.
Non. Vous parlez de Metz. Salson, attends ton tour maintenant parce que tu donnes des résultats.
Sochaux?
Non plus.
Le Mans?
Non plus. C'est deux équipes qui sont... Enfin, il y a une équipe qui est en Ligue 1 cette année.
Le Havre ?
Non.
Nantes ?
Non.
Montpellier ?
Non plus.
Mais non. Lens ?
Lens !
Ouais, Lens à l'ancienne.
Lens pour Alexandre. Et un troisième club, le troisième ?
Monaco ?
Non. Alexandre, t'entends ton tour. Okay,
pardon. Ils sont où maintenant ?
Ils sont... Il me semblait qu'ils étaient...
Dépôt de
en Ligue 1, mais ils sont en Ligue 2.
En Ligue 2 ?
Ouais. Ils sont en Ligue 2. Allez, je vous donne un petit indice. Ils viennent d'être relégués en National.
Mais non.
Je l'ai.
Je sais que tu l'as, Jason.
Qui est ce genre
Tic-tac. Tic-tac.
Je l'ai, je te jure.
Tic-tac. Je le donne.
Non, c'est pas 3.
Non.
C'est Martigues.
Non plus.
Non, c'est pas Martigues.
Lucas ? Eh ben, c'était quand ?
Oh, ah ouais !
C'était quand, mesdames et messieurs ?
Voilà.
Merci en tout cas pour cette soirée. Merci à vous. On va revenir la semaine prochaine avec de gros résultats, une grande semaine de football. Merci à Léo à la technique. Merci à Lucas pour ta première. Merci à Alexandre. Merci à Jason. Merci à Salson. Et on se dit à la semaine prochaine.
Merci à toi.
Bonne soirée à vous et bonne semaine de football. Et on se voit très bientôt.